Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je vais quand même pas pleurer parce que le Barça a pris 4-0 quand même, faut pas déconner les mecs.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
C'est marrant, pour Baptiste, il y a faute quand même.
Il y a un
des limites, quoi.
Il y a rien d'extraordinaire.
Bon, non, il y en a marre. Non.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Et l'after est là, comme chaque soir et comme chaque lundi. Vos drôles de dames sont là. Comme Giroud à Milan, il est irremplaçable. Comme De Rossi à la Roma, il est intouchable. Comme la Ciel Armitana, il est imprononçable. Salut Johan Crochet.
Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
Ça va?
Bah mieux qu'à la Salernitana, justement.
Oh, ouais. On va en parler, hein. Énième changement d'entraîneur, c'est n'importe quoi. Tout fout le camp. Il est comme un United Liverpool, il tient ses promesses. Comme Luke Berry de Luton, il brille quelle que soit la division dans laquelle il évolue. Comme la Women Super League, il est en pleine ascension. Salut Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous.
Comment il va celui-ci là?
Super, et toi?
Bah, écoute, ça va. Ça va, ça va. Tout va bien. Comme Almeria, il attend la fin pour conclure. Comme Xavi, il attend de dire qu'il s'en va pour briller. Comme Gérone, il finit par s'essouffler après tant de belles promesses. Salut Fred Hermel.
Oui, mais il va quand même aller en Ligue des Champions.
Ah, on va en parler, t'as compris, on va en parler. On va en parler, bien entendu. Et comme le maillot de l'Allemagne, il est indémodable. Comme Leverkusen cette saison, il est indétrônable. Comme Streich avec Fribourg, il est inégalable. Salut mon Paulo Breitner.
Bonsoir mon cher Nico. Bah, écoute, je suis pas bien reluisant.
Oh, bah qu'est-ce qui se passe?
Mais j'en sais pas, je crois que c'est des périodes post-Covid, j'ai l'impression que je chope tout ce qui traîne, c'est un peu, tous les trois mois j'ai un problème.
Tu sais, on a le même truc, ça s'appelle l'âge mon Polo, tu sais.
Ouais, non mais ça,
moi,
en fait...
j'ai le même truc.
Mais en fait, l'âge, ça facilite, c'est pas le... Mais toutes les, j'allais dire un gros mot, tout ce qui traîne, j'ai l'impression que je le chope en ce moment.
Eh bien écoute, c'est un peu le cas de Nico Jamin également, tout ce qui traîne, il le chope. C'est Nico Jamin qui sera là à partir de 22h.
Et là j'ai pris une leçon de la trop drôle de dame, hein.
Bah pourquoi?
Mais t'as mis le niveau très très haut là.
Bah non,
moi je reviens plus lundi soir.
Mais toi, depuis que tu crades avec ton César dans la main là. Non, un Oscar dans
Oscar.
La main.
Ah, Oscar. Ce grand film, Anatomie d'une chute.
C'est vraiment bien ou pas?
C'est un très bon film. Ouais. N'en déplaise à Paulo Breitner.
J'ai entendu un grand film la semaine dernière. Je suis devenu fou, j'ai arrêté de parler.
Mais tu l'as pas vu? On va pas recommencer chaque année.
Mais déjà, je l'ai vu. Je sais pas d'où tu sais que je ne l'ai pas vu.
Mais parce que tu me l'as dit l'année dernière.
On passe en 50 ans de Carol Reed à Justine Triet. C'est assez extraordinaire la décadence du cinéma.
Là, tu personnalises. T'aimes pas Justine Triet, donc ce film est une bouse pour toi.
Non, mais c'est fou. En plus, c'est filmé façon série.
Ah, mais il y a des explications à ça, mon cher ami.
Oui, d'accord, mais quand on parle de grands films, c'est assez extraordinaire. Mais c'est pas grave.
Ok. Bon, quel est le menu à 22h, Nico?
Alors,
c'est un grand menu.
Avec Daniel Riolo et Stéphane Guy. Tiens, Daniel veut parler de Marseille casting. Encore une fois. Marseille, c'est toujours fragile, malgré les pansements, malgré les médicaments du pharmacien Jean-Louis Gasset. On parlera de Nantes aussi, Cambouaré qui revient 10 mois après avoir été viré. Incroyable. La valse quitta continue, 19 coachs en 17 ans, tout simplement. On va évoquer ça. Est-ce que quitta envoie Nantes encore dans le mur de la Ligue 2? Le baromètre européen de la Ligue 1, comme tous les lundis, le Stade Rennais de cette question, par exemple. Première équipe du championnat en 2024, peut-il coiffer tout le monde pour la Ligue des Champions? Et puis avis de Stéphane sur Kylian Mbappé, tiens, il aurait dû quitter Paris et la France il y a 2 ans déjà, ça aurait été bien pour lui et pour la France aussi. Et puis l'actu du jour, l'équipe de France aussi, avant son match contre l'Allemagne, la Nationalmannschaft samedi soir. Voilà pour le programme de l'After, Nico.
Merci beaucoup Nico, qu'on retrouve donc à 22h avec Daniel, avec Stéphane. On vous rappelle également, hein, à partir de 21h45, on vous attend 32-16 pour poser vos questions aux drôles de dames, le 32-16 est ouvert. Max, vous attend au standard. Les drôles de dames, c'est parti. Tiens, le mercredi 10 avril, c'est le retour de l'expérience RMC. Le PSG va affronter le Barça en quart de finale de Ligue des Champions au Parc des Princes. Et donc, on vous offre l'expérience RMC, visite des studios RMC, rencontre des équipes, vous vivez le match également au Parc des Princes. On vous offre vos places pour assister au quart de finale de Ligue des Champions, assister au débrief du match dans l'after dans les studios d'RMC. Dès que vous entendrez ce signal, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16, PSG au 7-32-16, et pour gagner vos places pour PSG-Barça, il n'y a qu'ici que ça se passe. Et bien justement, on va en parler de l'adversaire du Paris Saint-Germain pour ce quart de finale de Ligue des Champions. Ce sera donc le 10 avril prochain pour le match aller. Un Barça qui ce week-end affrontait l'Atlético à Madrid, un Barça qui a explosé les Colchoneros 3-0. Alors Fredo, tu disais comme beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain d'ailleurs, que le Barça était un bon tirage pour les quarts. Est-ce que les Parisiens ne doivent pas commencer à flipper maintenant là? Parce que la série est quand même bonne là pour le Barça.
Quand t'es en quart de finale de la Ligue des Champions, tu ne dois ni flipper ni être condescendant. Donc là, c'est du sérieux. Enfin, quand tu vois les forces en présence, c'est vrai que ce tirage-là, il y a 4-5 ans, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Voilà, ça reste un moins mauvais tirage que d'autres. C'est moins mauvais pour le PSG que de tomber contre City.
Mais le Barça d'aujourd'hui, t'inquiète pas un peu plus que le Barça, forcément, d'il y a quelques mois, quelques semaines même.
C'est-à-dire que c'est. Alors, hier, ce qu'on a vu, c'est un Barça terriblement efficace face à un Atlético. J'ai pensé à Johan hier en disant, mais comment ton Inter, Johan, a pu perdre contre cette équipe?
Après, ils ont été très bons contre l'Inter.
Mais... Ouais, mais même. Enfin, mais hier soir, quand tu vois le deuxième but de Lewandowski qui est sublime, hein. Lewandowski, c'est extraordinaire. Lui, il est en train de bien revenir. Mais la passe latérale molle devant la surface de De Paul, mais c'est des trucs, un joueur de cette expérience, un champion du monde argentin, c'est des trucs qui ne se font pas. C'est hallucinant. Puis ils ont loupé des occasions de malade. Enfin, non, mais cet Atlético était pourri. Et d'ailleurs, l'Atlético aujourd'hui n'est plus à la quatrième place. Il a été dépassé par l'Atlético Club. Donc l'Atlético aujourd'hui n'est plus en Ligue des Champions la saison prochaine. Ce qui, financièrement, serait une catastrophe pour ce club, comme tous les clubs espagnols, sauf le Real, et les problèmes d'argent. Donc, là-dessus, c'est terrible. Ce Barça, je dirais qu'il a, alors, on va pas dire que dans le jeu, c'est exceptionnel, même si il y a quelques jolis mouvements. Mais vous avez, et je pense que Luis Enrique a dû bien le voir hier, une sorte de colonne vertébrale qui est en train de se former, là, qui est en train de retrouver un très bon niveau. Ter Stegen, Gundogan, Lewandowski. Gundogan était vraiment en train de se révéler, parce que ça faisait plusieurs bons matchs, mais là c'est les trois. Parce que hier, il y a un arrêt, notamment un arrêt absolument extraordinaire, une intervention extraordinaire de Ter Stegen. Gundogan, il est quand même très bon depuis plusieurs matchs, et hier, on sent qu'il commence à prendre l'équipe à sa, tu vois, à faire jouer l'équipe, tu vois, vraiment à dominer son sujet, et Lewandowski qui...
Alors, dont on parle plus d'ailleurs, Lewandowski, c'est 20 buts, 8 passes d'ailleurs avec le Barça cette saison, et on en parle finalement très peu de Lewandowski. Ouais. Faut dire, il nous a tellement bien habitués, et ça, Polo, tu pourras en témoigner, mais 35 piges, il est là, hein, avec ses 20 buts, 8 passes d'en 39 matchs.
Ouais, voilà, c'est le joueur le plus décisif de toute la Liga.
D'accord.
C'est-à-dire, c'est le joueur qui, de par ses buts et ses passes décisives, a apporté le plus de points à son équipe en Liga cette saison. Donc, oui, c'est le joueur le plus important, voilà, et il a eu une petite période un petit peu compliquée quand même, hein, mais là, enfin, quand tu vois le but de Lewandowski qui est le deuxième, là, enfin, dans un an, et là, c'est un but, il regarde même pas le but, quoi, il trouve un angle incroyable, il bat Oblak, qui est quand même un super gardien, donc, évidemment, le PSG, de toute façon, ce Barça-là est un Barça qui n'est plus le Barça ultra dominateur du ballon, etc. Hier soir, il ne domine pas tout le match, hein, tu vois. Mais c'est un Barça, on va dire, beaucoup plus efficace. En tout cas, aujourd'hui, un Barça très efficace, qui commence à remarquer des buts. Et surtout, et ça, c'est la grosse bonne nouvelle pour le Barça et mauvaise nouvelle pour le PSG, c'est que, rappelez-vous, toutes les semaines, depuis le début de la saison, je dis, voilà, ce Barça en défense, ça marche plus.
Ouais. Là, ils font un clean sheet au Wanda, en plus.
C'est 4 matchs de Liga consécutifs sans prendre de buts.
Ouais.
Donc, avec la découverte de Cubarsí, qui est encore hier soir, d'ailleurs qui va jouer avec l'Espagne, il a été convoqué par le Luis de la Fuente, qui hier fait un super match. Donc voilà, ce Barça, mais de toute façon, c'est je veux dire, ça reste quoi qu'il arrive difficile de jouer un demi-finale, enfin un quart de finale de Ligue des Champions contre le Barça. Mais ce n'est pas le Barça de la remontada. Enfin, c'est ce que je veux dire. Ouais. Je veux dire, c'est pas dans la créativité, etc. Mais il y a un truc que doit absolument éviter le PSG. C'est les erreurs comme telles qu'on a pu en faire hier soir l'Atlético.
Ouais.
C'est une équipe qui aujourd'hui ne pardonne pas. Koundé aussi commence à s'habituer à son poste de latéral. Voilà, Araujo est toujours très fort. Ouais, ça commence. Alors pour le retour pour le PSG, il y aura le retour de Frankie de Jong, bien entendu, parce que c'est ça une simple entorse. Après, sur Pedri, on verra, parce que comme c'est musculaire et quand on sait tous les problèmes qu'a Pedri à ce niveau-là, on peut pas le dire. Mais en tout cas, le milieu de terrain aujourd'hui commence à être à reprendre quelques couleurs malgré ses absences.
Alors, le Barça, adversaire du PSG en quart de finale de Ligue des Champions, l'Atlético, adversaire de Dortmund en quart de finale de Ligue des Champions. Alors, d'ailleurs, je regardais ce 3-0, c'est la plus large défaite de l'Atlético au Wanda. Ils n'avaient jamais perdu 3-0 dans ce stade encore. Je sais, Polo, que tu as eu un œil attentif sur ce Atlético qui va donc affronter le BVB en Champions.
Oui, oui, je fais comme d'habitude, quoi. Dès qu'on rencontre des équipes allemandes, je regarde un peu ce qui se passe les 2-3 journées d'avant. Je sais pas trop quoi dire sur cette rencontre tellement Barcelone était supérieur à l'Atlético. Je m'attendais pas à ce genre de rencontre. J'ai en mémoire des oppositions entre les deux équipes où ça se joue à rien du tout, même à la période du Grand Barça. Et puis, j'ai pas vu l'Atlético du match de Ligue des Champions contre l'Inter. Donc je sais pas. Alors c'était pas forcément les mêmes joueurs des deux côtés d'ailleurs. Mais si tu veux, j'ai l'impression que c'est une raclée logique d'un match d'un futur champion comme le Real ou le Barça qui en dans le championnat espagnol s'amuse quoi. Donc j'ai pas reconnu l'Atlético de Simeone, mais je juge pas si tu veux, parce que je regarde pas tous les matchs de l'Atlético, mais j'ai été extrêmement déçu par la qualité technique. J'ai l'impression que physiquement ils étaient pas là, ce qui est quand même l'une des grandes marques de fabrique de ce club. Et donc tout ça, ben si tu veux, j'ai été, je sais plus, c'est lors du tirage, je pensais que l'Atlético pouvait faire un truc cette saison en Ligue des Champions. Et ben quand je regarde ça, j'étais du côté du Borussia Dortmund. Tu te dis, il y a peut-être une fenêtre ouverte, quoi. Donc, mais je sais pas. Honnêtement, faudra voir les prochains matchs. Mais j'ai été extrêmement déçu en fait. Je sais pas si j'ai été impressionné parce qu'on n'arrête pas de me dire que le Barça, ça vaut plus rien de voir le Barça ou de voir l'Atlético qui était loin de son niveau contre l'Inter.
Alors le mythe Simeone, ce qui est terrible, c'est que les statistiques, moi je suis pas un homme de statistiques, mais enfin il y a quelques statistiques qui sont très...
Tous les lundis, il nous dit, je suis pas un homme de statistiques, oui, mais tous les lundis, il nous sort des statistiques.
Il est bon, lui. Et là, c'est mon pote...
C'est-à-dire, c'est très ibérique hein, dans la culture, hein, ils aiment bien.
De dire ça,
ouais. Mr. Chip.
Ouais. Mr. Chip. Ouais. En fait, depuis que Simeone est entraîneur de l'Atlético, donc ça fait 13 ans, il n'y a que 2 victoires en 25 matchs contre le Barça, en Liga.
Ah ouais, c'est vraiment sa bête noire.
C'est un truc de fou. Et contre le Real, c'est 6 victoires en 25 matchs.
Ah ouais, c'est vraiment, il aime pas jouer contre le Barça, quoi.
Non, mais contre le Real non plus. Ouais. C'est-à-dire que le mythe Simeone, qui a fait des choses extraordinaires, mais quand tu vois devant les deux plus gros que lui, c'est quand même compliqué en Liga aussi, tu vois.
Et juste quand même, un petit mot rapidos, c'était aussi le grand retour de Jean-Félix Wanda.
Ah, mais...
Alors, qui a marqué, alors, dont il a été scruté, hein, moindre fait, célébrations qui ont été scrutées là aussi. Il se fait déglinguer, hein. Alors, avant le match, il y avait des maillots lui qui étaient brûlés. Aussi, ouais. Ils ont aussi vandalisé la plaque à l'entrée du stade avec son nom.
Mais franchement, quand tu vois le prix que coûte un maillot, le brûlé, enfin, c'est... non, mais ça coûte 100 balles, les mecs, ils brûlent. Enfin, moi, je trouve ça tellement ridicule, enfin, Et en plus, alors 30% des buts qu'il a marqué cette saison en Liga, c'était contre l'Atlético.
Oui, qu'il a marqué à l'aller aussi.
Et au retour là, donc voilà. Mais après, c'est il appartient à l'Atlético.
Ouais, je suis curieux de voir où il va être la saison prochaine, lui, quand même.
Mais de toute façon, le problème de João Félix, c'est qu'il se motive deux matchs dans l'année. Donc,
D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à la fin du match. C'est le genre de match que j'aime bien.
Mais sauf que quand tu
très bien d'aimer les autres.
C'est-à-dire que quand tu veux prétends jouer dans un grand club comme le Barça, faut aimer tous les matchs, même contre les petites équipes, parce que tu vas gagner. Non, mais de toute façon, c'est un joueur perdu pour le grand football. Voilà, c'est sa carrière. Il est en train de passer à côté. C'est une question de mentalité.
Autant qu'il gagne l'Euro, ça me va. Les gars, dans quelques secondes.
Il sera titulaire?
Tu sais que je pense que dans l'esprit du sélectionneur, il est autant titulaire qu'un Raphaël Léon, par exemple. Ce qui est fou quand même quand tu vois le temps de jeu des deux.
Mon Dieu.
Ouais. Dans quelques secondes, Julien Laurence va nous faire revivre l'une des autres grosses affiches du week-end, le quart de FA Cup entre United et Liverpool. Qui nous dira-t-il est entré dans la légende ou pas? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Et les drôles de dames qui sont là comme chaque lundi 20h15, vous êtes sur RMC, merci d'être avec nous. Johan Crochet, Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel sont là, on vous attend au 32-16 pour poser vos questions aux drôles de dames comme chaque lundi. On revenait sur le match, le choc entre le Barça et l'Atlético ce week-end. Il y avait un autre choc en Angleterre, le quart de finale de FA Cup entre Manchester United et Liverpool. United qui a mené, puis ce fut Liverpool, puis 3 buts lors des prolongations et au final une victoire 4-3 des Red Devils. Julien Laurence, alors, match de légende ou pas, ce United-Liverpool?
Ah, sans aucun doute. Un vrai classique, déjà, de la Coupe d'Angleterre, un match légendaire dans ce qui est la plus grosse rivalité du football anglais, bien sûr, entre Manchester United et Liverpool. On entend, bien sûr, on veut surtout pas entendre parler d'un derby d'Angleterre. Ça n'existe pas. Je sais pas qui a inventé ce mot-là, mais ça n'existe pas.
D'ailleurs, il y a qu'en France qu'on dit ça, curieusement. C'est bizarre. Ouais,
c'est bien, à mon avis, c'est bien une invention française. Ça ne m'étonnerait pas du tout, d'ailleurs.
Non, mais parce que, en fait, je sais pas le nombre, en fait, ce pays, grand pays du football qu'est la France, qui passe son temps à récupérer des expressions des autres pays pour le mettre à sa sauce, c'est assez extraordinaire, quand même.
Ouais, je sais pas ça vient. Mais, toujours est-il que c'était un très très grand match. Alors peut-être pas pour les grands fans de football technique par exemple. Il y a eu du déchet, bien sûr, c'était loin d'être parfait. Liverpool notamment a baissé physiquement lors de la prolongation. C'est normal, hein, ils ont quand même joué 1 milliard de matchs sur les 3 derniers jours, donc c'est compliqué, je comprends très bien. Mais United a remporté ce match incroyable qui, à un moment donné, quand même en seconde période, quand ils étaient menés 2-1 et que Liverpool contrôlait la rencontre, je pense que peu de leurs supporters auraient pu voir un scénario pareil. Et pourtant... on les a souvent critiqués. On a souvent critiqué Ten Hag dans l'émission, surtout moi. Et là, faut quand même reconnaître qu'ils ont jamais lâché, qu'ils ont toujours cru en eux, cru en cet exploit possible de pouvoir revenir, alors qu'ils avaient très bien commencé le match. Ils étaient la meilleure équipe pendant la première demi-heure, quasiment. Ils ont ouvert le score avec McTominay. C'était plutôt cohérent ce qu'ils produisaient, même dans le pressing. Après, ils ont ces lacunes qui reviennent, notamment l'espace entre les lignes, qui est un des problèmes de cette saison-là, hein. Pas que sur ce match-là, mais assez régulièrement. Mais ils ont su continuer à se battre quand ils ont été sous pression contre Liverpool, que Liverpool les a mis sous pression, pardon, en seconde période. Ils ont su faire le dos rond et rester dans la rencontre quand même jusqu'au but d'Anthony. Alors lui, il marque jamais, et là, il marque pied droit dans un match pareil à la 88e minute en se retournant, un but venu de nulle part. Bravo à lui, chapeau à lui.
Après, il a le droit de faire un match de temps en temps quand même, hein, tu vois.
Oui, mais là, c'est même pas un match qu'il a fait parce que.
Ouais, une action alors.
Voilà, en prolongation, Ten Hag lui demande de passer arrière gauche parce que Ten Hag a joué le tout pour le tout. Il a bien fait. Et encore une fois, il mérite du crédit pour ce match-là parce qu'il a fini avec deux défenseurs. On a eu Dalot qui jouait défenseur central. On a eu Anthony qui jouait arrière gauche. Bruno Fernandez qui jouait défenseur central aussi. Parce qu'il a joué son va-tout. Il aurait pu perdre 3 ou 4-1. Et on aurait dit, de toute façon, il perdait 2-1 déjà avant. Donc voilà, il a tenté quelque chose. Ça n'a pas marché. Voilà. Mais là, il a tenté. Et ça a marché puisqu'ils sont revenus d'abord de 2-1 à 2-2, donc avec Anthony. Ensuite, ils étaient menés 3-2 avec une frappe déviée d'Eliot. Ils sont revenus à 3-3. Alors certes, ils ont bénéficié d'une grosse erreur de Darwin Núñez qui doit jamais tenter de faire cette passe-là dans l'axe comme ça, d'un côté à l'autre du terrain. Ça finit par coûter un but à son équipe. 3-3. Et puis ils finissent par marquer sur un contre à la 121e minute alors qu'on se dirigeait vers les tirs au but. C'était un corner pour Liverpool. Mais entente entre Eliot et Endo, ça finit sur un contre Garnacho et Amad Traoré, Amad Diallo, si vous préféré, qui finit super bien, qui enlève son maillot, qui prend un deuxième jaune. Le pauvre, il se rappelle même plus qu'il avait déjà un premier jaune, donc il est expulsé. Mais c'est pas grave, c'est un match dont on se rappellera pendant de très très longues années, dont on parlera encore beaucoup. Il faut saluer le courage de Ten Hag, je pense le courage des joueurs de United aussi. Encore une fois, pour toutes les fois où je les ai critiqués ou je les ai massacrés, bah là, ils méritent vraiment vraiment du crédit parce qu'ils se sont accrochés jusqu'au bout. Ils gagnent, je sais pas si c'est un tournant ou pas dans leur saison. Ils restent cette fin de saison, ils peuvent aller chercher une place en Ligue des Champions. La seule chose que je dirais, c'est finalement, c'est dommage pour eux que cette trêve internationale arrive maintenant. Parce qu'après une victoire pareille, t'as envie de rejouer dans 3 jours, de retourner à Old Trafford. Vu comment les supporters étaient avec toi, derrière toi, l'énergie qu'on a sentie à Old Trafford. Ouais. Là, c'est vrai que pendant 15 jours, dans 15 jours, on sera passé à autre chose finalement quand la première ligue va revenir. Donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, s'ils arrivent à garder cette dynamique un petit peu, à la mettre entre parenthèses dans les 15 prochains jours, pour la reprendre après quand on va reprendre la première ligue, ça peut être tout bénef pour eux.
Alors justement, puisque tu évoques Manchester United, ils sont 6e de première ligue à 9 points de la 4e place, mais ils ont un match de moins que Villa qui est 4e. Ils sont qualifiés pour les demi de FA Cup. Ils vont affronter Coventry. L'autre demi, ce sera Chelsea City. Ils ont terminé dernier de leur groupe de Ligue des Champions, derrière Copenhague et Galatasaray, et le Bayern, bien sûr. Comment tu qualifies leur saison, toi, Julien? Parce que United, c'est quand même un trophée sur les 6 dernières saisons. Et là, bon, ils peuvent encore gagner la FA Cup, certes, mais ça risque d'être une saison blanche encore, au mieux avec une coupe, quoi.
Bah, c'est décevant. Sincèrement, c'est décevant. Malgré des matchs comme celui-là, il n'y en a pas eu assez. C'est très décevant. Je pense qu'une victoire en Coupe d'Angleterre, et tu l'as dit, Coventry, c'est la surprise. Ils ont sorti un match de fou à Wolverhampton, enfin une fin de match incroyable pour aller se qualifier pour les demi-finales. Leur entraîneur Mark Robbins est un ancien joueur de United, d'ailleurs le joueur qui avait sauvé la place de Sir Alex Ferguson à l'époque en Coupe d'Angleterre, qui allait se faire virer en cas de défaite ce jour-là. Donc on en reparlera encore de Mark Robbins et de son rendez-vous avec United. Mais pour moi, sauver la saison, le seul moyen, c'est la Coupe d'Angleterre. Même s'il y a qualification en Ligue des Champions, disons qu'ils finissent 5e et que la 5e place est qualificative, ce sera pas une bonne saison pour moi. Quand la saison dernière t'as fini 3e et que t'as gagné la Coupe de la Ligue anglaise, si tu finis 5e sans trophée cette saison, pour moi t'as refait un pas en arrière finalement. Il n'y a pas eu cette progression qu'on attendait. Je suis convaincu que Ten Hag partira cet été, que Sir Jim Ratcliffe et Ineos vont le dégager. J'en suis convaincu, sincèrement, j'en suis convaincu. Je sais pas qui viendra à la place. On parle, il y a certains noms comme un Southgate, comme un De Zerbi, comme un Thomas Frank de Brentford. Il y a des noms qui n'ont pas de sens, d'autres qui ont un peu plus de sens. Mais voilà, il peut se passer plein de choses, mais moi, je pense qu'il sera plus là. Mais sincèrement, j'attendais beaucoup mieux de cette équipe-là, malgré toutes les blessures. Alors, je sais que les blessures, ça fait partie du jeu et ça a été pour eux, bien sûr, quelque chose de très préjudiciable, je le comprends très très bien, mais j'attendais quand même beaucoup plus de cette équipe-là, individuellement, des joueurs comme Rashford par exemple, alors Anthony n'en parlons même pas, collectivement aussi, j'ai parlé tout à l'heure de l'espace entre les lignes, hier c'est flagrant, au stade ou à la télévision, il y avait des fois 30-40 mètres entre ta ligne de 4 défenseurs et ton milieu de terrain, entre les 4 défenseurs et tes 2 milieux de terrain et tes 4 attaquants, donc à un moment c'était du grand n'importe quoi, à ce niveau-là, avec un entraîneur pareil, donc voilà, je sais pas, pour l'instant j'ai encore un petit peu de mal à qualifier vraiment cette saison. il y a encore des possibilités. Tu gagnes la Coupe d'Angleterre, tu finis quatrième, t'as sauvé ta saison, il y a pas de problème.
Ouais.
Mais pour moi, ça reste quand même très décevant pour l'instant.
Et sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, il y a Artiste qui nous écrit ratio budget résultat very bad, et Richard nous dit Man United est d'une inconstance folle d'un match à l'autre et aussi pendant les matchs. C'est vrai que t'as l'impression que chaque fois c'est jamais les mêmes. Allez, on passe à la musique italienne. Federica Francesca, bien sûr.
Presque ça.
C'est qui ?
C'est Patti Pravo a Modo Mio. C'est remix, je ne sais pas comment on doit le dire, ouais. De My Way, évidemment.
Adaptation de My Way. Habitude.
Non, adaptation.
Ça va sortir dans les quatre langues, hein, je pense, là.
Ah, ouais, c'est vrai. Ouais.
De... Non, My Way, c'est une adaptation de Claude François. Hein.
Oui, exactement. Ouais,
comme d'habitude.
Là, en fait, là, je cherchais, puisqu'on va parler de la tournée américaine de l'Italie, j'ai cherché longtemps si Sinatra avait chanté quoi que ce soit en italien.
Et alors ?
Non.
Alors qu'il s'appelait Sinatra.
Mais tout simplement parce qu'il, alors aussi il ne parlait pas italien, et les quelques fois où il a parlé italien, c'était un peu compliqué, c'était un peu heurté, et donc je suis parti sur une version de My Way qui est pour moi une chanson assez exceptionnelle.
Il n'y a pas une version allemande de ça, Polo,
que lui n'aimait pas d'ailleurs.
Il y a Paul Vexio qui demande notre Real. Tu sais, ça existe ou pas?
C'est une bonne question, mais si tu veux. Comme d'habitude, pour moi, c'est surtout la version de Polanka la plus connue. Enfin, ouais. Pas la plus connue, mais en tout cas, celle.
Non, mais c'est Polanka qui adapte en anglais.
Exactement.
Le Comme d'habitude.
Exactement.
Et Sinatra, le roman. Ouais. En espagnol, ça existe aussi. C'est chanté par des tonnes de gens. Ça s'appelle Ami Manel en espagnol.
Mais en Italie, il y en a plusieurs qui l'ont repris aussi. Hein, donc là, c'était Patti Pravo, et donc c'est pour parler de la nationale qui va aux États-Unis. Alors, choix un peu étrange en pleine saison, au milieu des coupes d'Europe, match amicaux contre le Venezuela et l'Équateur. Pas grand monde ne comprend vraiment l'idée de ce trip-là, d'aller au mois de mars aux États-Unis, en plus préparer l'Euro contre des formations sud-américaines. Bon, il y a pas mal de choses un peu étranges,
mais chelou, ouais.
Toujours est-il qu'ils vont à Miami et à New York, et donc cette sélection va se composer de joueurs qui sont sur une grosse déception, les joueurs de l'Inter notamment, sur d'autres en plein enthousiasme, des joueurs de la Roma, du Milan, qui vont pouvoir amener quelque chose à cette sélection qui va normalement tester un nouveau schéma. On parle beaucoup d'une défense à trois côté Spalletti, parce que finalement il y a beaucoup de défenses italiennes qui jouent comme ça aussi, que le principal club italien, l'Inter, joue avec ce schéma-là, avec des joueurs qui sont totalement adaptés à ce schéma-là. Donc on devrait avoir un test sur le 3-4-2-1 notamment, avec un joueur très en forme, Pellegrini de la Roma, qui devrait avoir un rôle central dans cette équipe-là. Et il y a des nouveaux, Raúl Belanova, que les supporters de Bordeaux ont en mémoire ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'est pas forcément laissé beaucoup de bons souvenirs. Michael Floruncio de l'Hellas Vérone et Lorenzo Luca, l'attaquant de l'Udinese, qui était très attendu pendant très longtemps. Et il n'y aura pas Francesco Acerbi,
c'est quand même la polémique depuis ce week-end.
Ouais, depuis hier soir,
ouais,
en fait.
Ouais, ouais. Ouais.
Depuis hier soir, Inter-Naples, Juan Jesus explique que pendant le match à l'arbitre, que Acerbi lui a fait un commentaire raciste. Ensuite, ils se sont expliqués tous les deux. Juan Jesus a expliqué à la fin du match que Acerbi s'était excusé, que c'était un bon garçon, que ça finissait là, etc. Sauf qu'en fait, bah non.
Ah ouais, c'est trop tard.
Et donc, on attend de voir ce qui va se passer pour Acerbi. Il peut avoir 10 matchs de suspension, comme 5 matchs, comme 4 matchs.
Juste pour
comme
être précis, alors la Fédé italienne a fait un communiqué en disant, alors pour l'instant, ils l'accusent pas d'avoir tenu des propos racistes, mais ils ont quand même décidé de l'écarter de la sélection.
Décision prise entre Acerbi et le sélectionneur, ouais. Parce que aussi pour pas polluer l'atmosphère de l'équipe nationale pendant les 10 jours là, avec tous les jours des articles et demander à Acerbi de s'exprimer. Acerbi, au retour de Rome, là, au centre où avait lieu le rassemblement, a expliqué ce soir qu'il n'avait prononcé aucun mot raciste envers Juan Jesus et qu'il a même ajouté « Juan Jesus a du mal comprendre ». Donc on verra ce qu'il en
juste est. Juste, je lis l'extrait du communiqué. À partir du récit du défenseur Nerazzurri et donc de Acerbi, et en attendant que quoi que ce soit qu'il s'est passé soit reconstruit dans le convenu, il en est ressorti qu'il n'y avait aucune intention diffamatoire, dénigrante ou raciste de sa part. Voilà. Mais effectivement, l'enquête est en cours, donc par
contre. Exactement. Et Spalletti a été interrogé aussi en conférence de presse. Et on lui a dit, vous avez essayé d'appeler Juan Jesus, parce qu'il était entraîneur du Napoli pendant 2 ans. Et il a dit, j'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone est éteint, il répond à personne. Donc, voilà.
Voilà, affaire à suivre donc. Dans un instant, on va se replonger dans le top 5 de la Bundesliga avec Leverkusen toujours en tête, toujours en lice sur toutes les compètes. Le Bayer Leverkusen peut-il tout rafler? On en débat dans un instant avec Polo et avec les drôles de dames juste après ça sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Et c'est oui. Beaucoup moins bon en allemand, hein, quand même.
Et oui, il a trouvé notre Polo, notre Paul Vexonotrial. Elle s'appelle Marie Ross. Voilà, la sœur de Diana, Ross, bien sûr, tu l'auras reconnue. Et donc, la version de comme d'habitude en allemand, mon Polo. Tu l'avais pas celle-là, hein?
Pas spécialement. Enfin, l'original est tellement beau.
Non, mais c'est vrai que la mélodie de cette musique, elle est incroyable. Ouais, en plus, ça passe dans toutes les langues, mec.
Mais revaut.
Même en allemand, hein. C'est ouf, hein, Polo. Hein. Même en allemand, c'est beau.
Je ne répondrai pas.
Non, c'est très beau l'allemand chanté. Non.
Ah ouais, chanté, ouais.
Oui. Et puis en poésie, c'est.
Ah, mon Dieu.
Ah bon, non, la poésie allemande est exceptionnelle.
Ah, mais attends, mais moi, j'ai. Bien sûr. Tu vois comment c'est beau sans déconner.
Non, mais on peut dire ce qu'on veut, mais la poésie allemande romantique est exceptionnelle.
Ah ouais, Das Auto.
Bah, le romantisme, de toute façon.
C'est allemand, bien sûr.
Bien sûr, voilà. Das Romantisme. En Bundesliga, rien ne change en tête du classement. Là aussi, on a du romantisme, mon Polo. Leverkusen, Bayern, Stuttgart, Dortmund, Leipzig ont tous gagné, les cinq premiers. Leverkusen garde donc ses 10 points d'avance sur les Bavarois. Alors, Leverkusen qui est toujours en course aussi en Coupe d'Allemagne, hein, la Pokal. Ils sont d'ailleurs en bouli. Le seul club de bouli qui est en demi. Ça, c'est quand même assez fou aussi, mon Polo. Ils ont autoroute, hein, sur la Coupe d'Allemagne. Et ils sont qualifiés pour les quarts d'Europa League où ils vont affronter West Ham. Est-ce qu'ils peuvent pas réaliser le triplé, là, Polo, le Bayern Leverkusen?
Alors. Déjà, la presse allemande s'est emballée après les tirages au sort des champions et d'Europa League. C'est-à-dire qu'il y a le, je sais pas si vous le rappelez, mais en 2013, il y avait une finale Ligue des Champions 100% allemande à Wembley, où se passe, la finale 2024. Et comme ils ont évité le City et Manchester, et le Real, pardon, ils envisagent peut-être à nouveau de rêver à une finale 2024. Là, je parle de la presse allemande. Et en effet, il y a un petit son qui commence à dire qu'il faut absolument que Leverkusen soit en finale de l'Europa League, ce qui est pas évident quand tu vois le beau plateau cette année en Europa League, et j'ai presque envie de dire exceptionnel, parce que ils veulent absolument Liverpool en finale, parce que Jürgen Klopp, parce que Xabi Alonso, qui est peut-être le futur coach de Liverpool, en tout cas ancien joueur, et donc tout ça fait que il y a un petit discours qui dit que Leverkusen peut le faire. Tu l'as dit, pour la Coupe d'Allemagne, c'est assez extraordinaire ce qui se passe. On a passé, c'est vraiment retour vers le passé. On a d'un côté une équipe de troisième division, Sarrebruck, qui va affronter Kaiserslautern, et Leverkusen, donc qui est en deuxième division, Kaiserslautern, et en demi-finale, et Leverkusen, qui est donc la seule équipe de Bundesliga qui joue à domicile contre le Fortuna Düsseldorf, équipe en ce moment en deuxième division. Donc, en gros, si Leverkusen ne rafle pas au minimum la Coupe d'Allemagne cette année, c'est presque faute professionnelle. Ensuite, le championnat, quand tu vois, pas la prestation, encore une fois, de ce week-end, mais du fait que journée après journée, ils conservent leurs 10 points d'avance sur le Bayern Munich, et que là, Xabi Alonso, pardon, qui a été un peu critiqué parfois après la double confrontation contre Karabakh, à force de faire un turnover, avait changé 7 de ses joueurs par rapport au match de jeudi, et que finalement, ça passe encore contre Fribourg, qui, eux, avaient changé un seul de leur rencontre par rapport à leur fabuleuse performance contre West Ham, c'est de dire, ah ben quand même, il y a un truc, ils vont aller la chercher. Je pense à Patrick Schick, hein, Patrick Schick, qui était dans l'ombre de Leverkusen et l'ombre de Boniface, qui finalement, depuis le début de saison, on est à 20 matchs, la moitié seulement titulaire, et qui vient quand même de marquer son 10e but, ça a l'air de rien, mais il est là. C'est-à-dire que quand Boniface va revenir, il va revenir fin mars, début avril, on sait pas trop à quel niveau, mais en tout cas, tu sens qu'il y a quelque chose qui peut se faire. En tout cas, la presse se dit, il y a peut-être un truc à faire. Bon, le championnat, en gros, c'est réglé, la Coupe d'Allemagne, c'est réglé, et le plus compliqué, ça va être l'Europa League, mais vu le parcours, entre guillemets, chanceux, ils vont loin, parce qu'ils espèrent la Roma en demi-finale pour prendre la demi-finale, mon cher, leur revanche sur la demi-finale de l'année dernière.
Feyenoord a dit ça pendant 3 ans et on a vu ce que ça a donné.
Et on a vu ce que ça a donné. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils pensent, sauf que Mourinho sera plus là. Ouais. Donc il y a ce petit discours. Maintenant, je finis sur le dernier argument qui, moi, commence à me
courir sur le haricot.
C'est que Leverkusen 2024 n'a pas le niveau de Leverkusen 2023. La meilleure équipe d'Allemagne en ce moment, c'est Stuttgart. J'ai presque envie de dire de loin. Leur performance de ce week-end était assez extraordinaire. Et là, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont pris 2 buts. Parce qu'on parle toujours du scénario contre le Karabakh, mais ils sont pris 2 buts à l'aller.
Ouais, parce qu'ils sont pris tout. T'as raison, Paulo, parce qu'il y a un scénar de dingue, mais ils se mettent dedans tout seuls au final.
Et exactement. Ouais. Ils sont beaucoup moins attentifs défensivement par rapport à ce qui se passait en première début. Là, c'est pareil. Ils se prennent encore deux buts contre Fribourg. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une nouvelle tendance. Et t'as le sentiment que quelques joueurs, notamment en défense, et malgré le turnover, sont peut-être en train de baisser un peu le pied par rapport à ce qu'ils faisaient l'année dernière.
Alors un mot également sur le Bayern qui s'imposait 5-2 à Darmstadt. Alors c'était le duel des extrêmes hein. Alors avec un bon Moussiala. D'ailleurs juste on vous rappelle hein, pour la reprise après la trêve internationale, il y aura le choc entre Dortmund et le Bayern aussi hein.
Oui. Oui, alors c'est compliqué un peu pour Dortmund, parce que quand tu fais les calculs pour la fin de saison, là ils viennent d'enchaîner leur quatrième victoire à la suite, mais à chaque fois c'est un peu à l'arrache où tu comprends pas la prestation de Dortmund. Et ça sera un petit peu l'occasion pour le Bayern évidemment de... J'ai pas envie de dire d'enfoncer Dortmund parce qu'ils se battent pour être dans les quatre premiers de ce championnat, mais quand tu vois le parcours de Leipzig, quand tu vois le parcours de Dortmund et celui de Stuttgart, que celui de Dortmund, c'est quand même pas évident du tout. Donc tout ça ils vont recevoir Leverkusen aussi, le Borussia Dortmund. Ah là, je sais plus, je me rappelle plus la journée. Mais, et si tu veux, par rapport au Bayern, là, c'est pareil. T'as l'impression que la machine est un petit peu repartie, sauf qu'il faut voir les adversaires qu'ils ont rencontrés. Et puis il y a des moments, c'est pas extraordinaire. Alors tu l'as cité, Moussiala est revenu à un niveau stratosphérique qui était pas le cas depuis le début des années de la saison. Et là, en fait, il y a que lui. Évidemment, Harry Kane qui plante tout le temps. Donc tu te dis, il y a peut-être quelque chose qui se passe en ce moment. Mais moi, en tout cas, j'attends avec impatience cette rencontre de quart de finale contre Arsenal. Je pense qu'on aura le temps d'en discuter avec Julien. Mais parce que c'est peut-être la nouvelle génération des coachs et Arsenal qui revient à un très haut niveau. Et puis une fin de cycle. Ça sera peut-être la fin de cycle officielle, en fait, du Super Bayern que j'annonce depuis 18 mois, si je me trompe pas. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là.
D'ailleurs, Julien, je me tourne vers toi parce qu'il va y avoir ce Arsenal-Bayern en quart de finale de Ligue des Champions. Et on parlait de Leverkusen. Ils vont affronter West Ham également en Europa League. Comment tu les vois, toi, ces matchs depuis l'Angleterre? On en dit quoi, d'ailleurs, de ces adversaires que sont le Bayern et Leverkusen, et qui ne sont pas dans le même état de forme, même si le Bayern va mieux quand même depuis quelques temps?
Alors surtout, on en parle beaucoup ici parce que ça pourrait conditionner qui aura la cinquième, enfin la deuxième place au coefficient UEFA sur la saison et donc la cinquième place en Ligue des Champions la saison prochaine, puisque l'Italie semblerait, même si effectivement comme on en rigolait vendredi soir avec Johan, enfin surtout moi, il y a pas de club italien en Ligue des Champions à partir de maintenant, donc on a fait une petite blagounette, mais c'est rien, c'est parce que c'est la famille. L'Italie semble bien, voilà, mais après derrière l'Italie, ce sera l'Allemagne ou l'Angleterre, et donc forcément si le Bayern élimine Arsenal et que Leverkusen élimine West Ham, ils seront très bien partis les Allemands pour avoir cette cinquième place, et donc les Anglais resteraient à 4. Après, moi je suis impressionné par Leverkusen, surtout comme Polo l'a très bien dit lors de la première partie de saison, mais je pense qu'ils peuvent très bien aussi retrouver un moment cette qualité-là. West Ham, c'est une équipe, vous le savez, je suis pas un grand fan de David Moyes, j'ai du mal à comprendre son conservatisme bien trop souvent avec des joueurs comme Kudus, Bowen, Paqueta, etc. Donc je vois pas, avec un match retour en plus en Allemagne, comment West Ham pourrait éliminer cette équipe du Bayern, mais tout est possible. En revanche, le Arsenal Bayern est beaucoup plus intéressant. Ça ramène bien sûr les vieux démons ici en Angleterre sur les fessées que le Bayern mettait régulièrement à l'Arsenal d'Arsène Wenger il y a quelques années, mais c'est une bien meilleure équipe d'Arsenal qui est en tout cas bien plus constante et consistante que le Bayern cette saison. Et même avec le retour à Munich, je pense qu'ils ont une vraie belle carte à jouer. Est-ce que ça suffira? On en a parlé avec Polo vendredi soir. Il y a plein d'histoires à l'intérieur de ce match-là, entre Harry Kane et Tuchel qui reviennent à Londres, bien sûr, tout ça. Mais je pense que c'est beaucoup plus un 50-50 entre Arsenal et Bayern qu'entre West Ham et Leverkusen.
Très bien, merci mon Juju. Voilà. Excuse-moi, j'étais en train de parler avec Polo. Voilà, je vous révèle les secrets de fabrication de cette émission. Est-ce que tu veux qu'on fasse ta minute maintenant, mon Fredo?
Je sais pas, c'est toi le patron.
Ah non, le patron, c'est nous, on est intéressé à une équipe. Moi, je suis contre ce genre de choses. On est
c'est investir autogéré.
Alors, tu sais qui c'est le patron? C'est le mec qui m'a mis on y va dans les ans, c'est Jimmy Brown.
Ah musique
maestro.
Almería, un immenso coral, esto hermosa bahía. Almería.
Bah, vous avez compris de qui j'allais parler?
Je pense que
Almeria.
C'est...
Alors, celui qui chante, Almeria. Celui qui chante, c'est Manolo Escobar.
Bien sûr, le frère de Pablo.
Non, Manolo Escobar. Mais je suis sûr, vous connaissez sa chanson la plus connue.
Vas-y.
Que viva España.
Alors, ça, quand j'étais petit, il y avait tous de l'accordéon dans ma famille. Mes oncles et tout. Non, mais sérieux. Et ça, on le passe tout le temps.
Ah, bah voilà.
Ouais, comme quoi, on vous aime bien.
Voilà, donc, Almeria. Ça y est, Almeria a gagné.
Ouh, 29e journée.
Et quand tu comptes les deux matchs de la saison dernière, ça faisait 31 matchs de suite sans gagner.
Et ça grâce au nouveau coach, l'effet Pep Mel.
Alors, mais tu sais que Pep Mel est venu, alors c'est le troisième de la saison, mais il est venu, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont descendre, il est venu pour pas faire Fanny.
Bah, il a gagné.
Il est venu uniquement pour ne pas terminer la saison, pour pas entrer dans l'histoire comme le seul club espagnol de l'histoire, parce que là déjà ils ont battu le record. Jamais pendant une saison on avait attendu 29 journées avant de gagner un match, hein. Mais donc Almeria, pour son histoire, ne voulait pas être dans le Guinness des records de la Liga espagnole et d'être le club qui aurait passé toute une saison sans gagner un seul match. Pepe Mel arrive. Pepe Mel, c'est un vieux routier du foot espagnol, il est passé un peu partout.
C'est un spécialiste des opérations maintien. Il l'a même fait d'ailleurs en Angleterre, tu te souviens ou pas, Juju? Est-ce que tu te souviens par quel club il est passé? West Brom. Il avait sauvé West Brom.
Ouais. West Brom. Et si, si, exactement. Je pense que je l'aurais peut-être retrouvé dans ma mémoire.
Mais... Ouais, moi, c'est ça, ouais, bien sûr. Quel mytho celui-là.
Non, si, si. Mais...
Et donc, en plus, il gagne à Las Palmas. Est-ce qu'il est pas.
Ils ont 14 points de retard sur la 17e place. C'est mort, on est d'accord.
Mais non, mais c'est mort, c'est sûr.
Il y a 27 points à prendre. Ouais.
Ouais. Et en plus, il gagne à Las Palmas.
C'est chaud là-bas d'aller gagner en plus.
Hein. C'est dur. Le Barça avait gagné, mais à dernière minute et tout, ça avait été compliqué. Donc, donc, on est content pour Almeria qui est. Et en plus, vous savez ce qu'il y a de terrible? C'est qu'Almeria n'est pas l'équipe qui joue le plus mal au foot.
C'est que moi j'ai vu le match contre Séville. Ils ont flingué tous nos tickets, si tu veux savoir, il y a une semaine.
Ouais.
Parce que franchement, ça joue.
C'est hallucinant. C'était pas normal qu'Almeria, en jouant comme ça, déjà soit dernier, c'était horrible, mais ne gagne pas un seul match. Donc c'est fait, ils ont gagné. Au moins, ils ne feront pas Fanny cette saison.
Et bah, Kébi va.
On dit Fanny, c'est en baby-foot, on disait Fanny paye un verre.
Bien sûr.
Ah, oui, c'est ça. Donc les gens savent ce que ça veut dire, faire Fanny.
Bien sûr. Donc, c'est la pétanque, dit Paul Vecchio plutôt.
Ouais, la pétanque aussi, mais
la pétanque. Moi, je sais défendre
la pétanque.
La pétanque, c'est vrai?
On dit la pétanque, hein?
Ah non, je sais pas, je dis sans
déconner. Ah non, on dit la pétanque, hein? Bonjour, l'Espagne.
C'est possible, si, en vrai. Milan gagne, Milan marque, mais Milan peine à trouver un bon neuf quand Giroud n'est pas sur le terrain. Explication, analyse avec Yoann Crochet dans quelques instants. Avec nos drôles de dames également, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Desta vez, o ato final, amigos.
Alors, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, ça marche peut-être pas dans toutes les langues finalement, mais. Merci Paul Vecchio, hein, tu l'as trouvé en portugais, je connaissais pas du tout cette chanson, les mecs.
C'est mieux que l'allemand quand même encore. Hein.
Ah, je sais pas.
C'est pas
ouf. Mais il a pas une voix de dingue en fait, je pense, sur tout ça.
Mais qui?
Je sais pas, on dirait Paul Sosa, mais je pense pas que c'est lui. Mais il a la même voix que lui, c'est ouf. Ah, attends, parce qu'il y a Paul Vecchio, mais il est DJ ce soir. Allez, vas-y, Polo! Kenes, ça va être Kenes?
Ah non, là, ils l'ont tué la chanson.
Tu sais qui c'est ou pas?
C'est qui?
Bravo!
Oh,
mais attends,
là,
c'est pas fini, y'a pas que lui. Et lui? Vous le reconnaissez ou pas?
Bisbal.
Non. Il est pas espagnol.
Ah, c'est Enrique Iglesias.
Non, il est pas espagnol.
Alors c'est l'autre. C'est le mexicain.
Mais non, il est tu connais pas. Tu reconnais pas la voix. Et alors?
Pascal Le Métard.
Mais non, comme d'habitude. Non, mais c'est le même pays.
Ah oui, c'est
pas le même pays. Bien sûr. Bien joué, Paul. Bien entendu. Et alors? La grande musique, il est là, mon Polo. Hein. Il connaît tout, rien ne lui échappe. Hein. Je parle de Paul Vecchio. Hein. Et de toi aussi, bien sûr que tu l'as reconnu, bien entendu.
J'ai Fiking, j'ai un peu zappé.
Ah, c'est l'alerte, c'est l'alerte. Alerte, et vous avez reconnu
le Johan.
Ouais.
Pour Johan. Grande musique pour Johan.
Alors mon Johan, sache que tu n'as pas tout perdu, tu peux encore assister au quart de finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Barça.
Ah,
tu as 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer PSG au 7-32-16 et vous qui nous écoutez aussi pour vivre l'expérience RMC. Tu sais quoi Johan, tu pourras venir avec nous, assister aux émissions, aller voir le match au parc et assister à l'after si tu le souhaites et même venir dans la libre antenne.
Et ben avec grand plaisir.
Tu peux venir dans la libre antenne ou
pas? Tu peux rencontrer Nicolas Villas, imagine.
Ouais.
Vous
chance.
Mettez toujours une chaise au début de la porte, là?
Pourquoi?
Quand tu fais les émissions.
Pourquoi?
Bah pour Johan.
Ah oui, bien sûr, ouais, bien sur le bienvenu, bien entendu.
T'inquiète, Polo, on la mettra pour l'Euro où vous faites 8e de finale depuis 10 ans.
Oh oui,
hein, avec ton maillot tout pourri là, on va en reparler tout à l'heure. On va en reparler à 21h bien entendu. Alors mon Yo, puisque la fête continue pour toi. Ce week-end, Milan s'est imposé 3-1 à Vérone. 5e victoire de suite pour les Milanais, toutes compètes confondues. Ils sont 2e de Serie A à Milan. Et pourtant, malgré des stats offensives plutôt flatteuses, tu constates que quand Giroud n'est pas là, c'est quand même assez compliqué pour celui qui le remplace.
Oui, parce que on a eu le moment Luka Jovic qui, comme on l'avait évoqué, hein, est très bon en super sub et marque des buts et peut être très intéressant quand on vient à pousser en fin de match et à mettre beaucoup de ballons dans la surface parce que c'est un attaquant de surface.
Okafor est pas un 9 et a pas tous les repères du numéro 9, et surtout quand tu es derrière Giroud, c'est un peu compliqué, même pour une typologie de jeu qui est développée avec Giroud maintenant depuis quelques saisons. Et effectivement, sans Giroud, c'est beaucoup plus difficile pour les numéros 9, et on le voit à chaque fois que Giroud est sur la pelouse. Il parvient à faire la différence, alors pas toujours en marquant, mais globalement il fait comme encore une très bonne saison, hein. Quand on regarde ses saisons, c'est 14 buts, 18 buts, 14 buts.
Bah en fait, sur les 3 saisons qu'il fait,
saison actuelle, hein,
c'est le meilleur buteur de Milan à chaque fois, y compris cette saison.
Bien sûr. Et se souvenir quand même qu'il a coûté 1 million d'euros.
Ouais.
Quand ils l'ont pris. Donc il y avait, je crois, 2 millions d'euros, une sorte de bonus, et je pense qu'elle a été débloquée. Mais ça a été une super recrue de l'air, entre guillemets, entre Elliott et maintenant Redbird. Et il y a aussi cette question maintenant
de l'après.
De l'après, parce que cet été, il y a quand même de grandes chances ou opportunités, soit qu'il retourne en Première Ligue, soit qu'il aille aux États-Unis.
Tiens, juste attends, on marque juste une pause. Juju, retour de Giroud en PL, t'y crois ou pas?
Non.
Bon, non, alors ce sera la MLS.
En MLS, et okay. Idéalement avec son pote Hugo Lloris à Los Angeles.
Ah ouais, tu vois là-bas, toi?
Bah, de toute façon, il n'y a que 3 villes pour ce type de joueur-là. Il y a Miami, mais avec Suarez, Messi, etc. Busquets, Alba, le plafond salarial, il est explosé.
Ouais.
Deuxième, New York. Troisième, Los Angeles. Les clubs de New York, c'est quand même pas génial. Il y en a un qui appartient au Citigroup. Ça rentre pas totalement dans la politique du groupe. New York Red Bulls, ça tire un peu la langue depuis pas mal de temps.
Après vivre New York.
Donc Los Angeles, ouais. Ça semble assez crédible. Et donc le Milan va devoir se trouver un nouveau numéro 9 sans doute. Peut-être même deux, parce qu'on ne sait pas si Jovic va rester. Est-ce qu'il offre assez de garanties? Pas certain non plus. Ils vont devoir prendre un numéro 9 plus jeune, évidemment, qu'Olivier Giroud. Encore que s'ils trouvent le même type de joueur, pourquoi pas. Oui,
mais il est rentable. Utile, hein.
Il est rentable.
Il a été très, 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 très utile.
Il était alors... gratuitement. Hein.
Non,
un million ouais, donc gratuitement, quoi.
Et
oui, tu n'as pas 1 million d'euros. Attends.
Bah, bien pour sûr. Un club. Non, mais faire un joueur comme ça, 1 million. Oui,
et il y a pas mal de candidats, notamment Joshua Zirkzee. C'est pas toujours facile parce que il y a une clause avec
c'est
le Bayern.
De Bologne.
Il y a une clause avec le Bayern. Le Bayern prendra 50% de la revente.
Ah, oui.
Et il y a aussi une possibilité pour le Bayern de le reprendre à 40 millions d'euros.
Alors là, je me tourne vers Polo. Le retour de Zirkzee, on en parle ou pas en Allemagne?
On en a parlé pendant un moment, notamment Rummenigge, mais le problème, pardon, c'est pourquoi tu l'as fait partir. C'est-à-dire qu'en fait, si Zirkzee revenait au Bayern Munich, évidemment pas au même prix à laquelle il est parti, ça montrerait une fois de plus, en tout cas sur la gestion des jeunes, que le Bayern Munich n'est pas le club le plus en pointe sur ces questions-là. Et donc, si tu veux, la presse s'intéresse à ça. Donc, il faut toujours qu'il y ait un dirigeant du Bayern, en l'occurrence Rummenigge, pour dire oui, ça serait intéressant, il nous a aidés. La question, c'est, et c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours, on en parlait un peu de la nouvelle politique du Bayern, où il fallait trouver de l'argent. Zirkzee serait à peu près aux antipodes de la nouvelle politique qui doit être mise en place pour trouver de l'argent. Parce que si tu commences à payer des joueurs plus cher que tu les as vendus pour les faire revenir, ça devient un petit peu délicat. Donc voilà, on en est là. Moi, j'y crois honnêtement, le retour de Zirkzee, j'y crois pas beaucoup.
Dans les autres joueurs, il y a Sesko qui est chez Polo aussi, ouais. Red Bull. Il y a aussi Jiménez, l'attaquant mexicain de Feyenoord. Typologie de joueurs un peu différente. Hein. Zirkzee,
ouais, c'est pas le même profil
plus au jeu. Ouais. Jiménez est beaucoup sur la grinta, sur l'agressivité, sur le pressing haut, etc. Sesko, c'est encore un autre type de joueur. Il y a Jonathan David aussi.
Attends, ça parlait d'Iazice là aussi, là, je voyais là, de Lille.
Oui, ça peut être l'opportunité.
Un genre de complément,
de fin de contrat, genre de complément. Je suis pas certain qu'il fasse jouer neuf. Jonathan David aussi de Lille.
Il a une bonne cote comme ça.
Ah, attends, il a fait une année 2024.
Oui, d'accord.
De
Fourvière,
c'est incroyable.
Ouais.
Bon, oui, mais bon.
Non. Mais moi, je sais pas quel peut être le potentiel de. J'arrive pas à. Avec ce joueur, j'arrive pas à comprendre vraiment quel type de joueur c'est et jusqu'où il peut aller, etc., etc.
Attends, juste un truc. Pourquoi il reste pas à Milan? Ils veulent pas le garder? Lui,
Milan voudrait plutôt le garder. C'est plutôt lui, et pour des raisons familiales, et notamment moi, ce qu'on m'a dit à Milan, c'est que sa femme se plaît pas trop dans la ville.
Ah.
C'est une ville un peu particulière, très dans l'entre-soi, etc. Donc c'est pas toujours très simple de.
C'est très bourgeois, très.
Très bourgeois, très dans l'entre-soi, et c'est pas toujours très simple de se créer des cercles d'amis, de connaissances, etc. Donc apparemment ça se déciderait plutôt à ce niveau-là et pas spécialement sportivement, parce que Milan serait tout à fait ok de garder Giroud et de prendre un autre neuf et de dire à Giroud bah tu partageras un peu plus le temps de jeu, etc., ce qui devait déjà être plus ou moins le cas cette saison et qu'il l'est pas tant que ça finalement. Et il y a aussi une autre option, c'est Camarda, le très jeune attaquant de Milan, 16 ans, qui vient d'avoir 16 ans. Le problème, c'est que pour signer son premier contrat pro, les agents, évidemment, ont senti le truc, réclament beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et Milan, qui a une politique de transfert assez saine financièrement, qui ne veut pas se mettre dans des situations compliquées et pas exploser toutes les grilles salariales et tous les montants selon les différents statuts dans le vestiaire. On ne sait pas si ça va pour se faire. Et peut-être que Camarda ira chez Julien Laurence, parce que Julien Laurence récupère tous les bons joueurs, ce qui lui permet, lui, d'avoir des clubs qui vont loin en Ligue des Champions avec le travail par les autres pays.
Voilà. Avec plaisir.
Eh ben merci beaucoup Moyo. Dans quelques instants, l'Euro approche. Les équipes nationales et leurs équipementiers dévoilent leur maillot et celui de l'Allemagne, pays hôte, fait polémique. Polo va nous expliquer pourquoi le Rosa Tricot fait autant jaser Autre-Rien. À tout de suite avec les drôles de dames. Autre-Rien, Autre-Rien aussi. C'est trois fois rien. Trois fois rien.
Génération After.
RMC.
Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot.
C'est insupportable de donner une note. La Poste vient de voir, tu reçois un mail en disant faut le noter, tu regardes un film, on te dit qu'il a plu, faut le noter. Ben, allez vous faire voir, les gars.
Di Maria, il est tout seul! Di Maria, t'es nul! Mais t'es nul, Di Maria! Il a frappé au-dessus, Di Maria! Di Maria, tu es nul!
The best league in the world! Come on, the Premier League! Every single day.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Et ils sont là, bien entendu, nos drôles de dames. Fred Hermel, Polo Breitner, Julien Laurence, Johan Crochet. Est-ce que vous êtes bon?
J'étais jeune quand je disais Di Maria, t'étais nul.
Et là, t'avais des cheveux et tout, non?
Ouais.
T'es bon. C'est la belle époque, hein, mon.
Oh là là. Ouais. On parle pas.
Et dans moins de 3 mois, les gars, l'Euro va débuter. Vous savez qu'on est dans une semaine de trêve internationale, beaucoup de matchs de prépa, les Italiens qui vont être aux États-Unis pour le projet sportif, bien entendu. On a compris. T'as vu? C'est vrai que c'est hyper logique, hein, ton histoire. Et après, ils vont dire, ouais, on fait trop de kilomètres, ils sont fatigués. Bref, il n'y a plus de saison, ma petite dame. Et Euro qui aura lieu, bien entendu, en Allemagne. Et la Nationalmannschaft, comme beaucoup d'autres sélections, a dévoilé ses maillots pour la compétition. Alors, le maillot domicile est blanc, petit parement noir d'ailleurs, jaune et rouge, hein, assez classique d'ailleurs, en somme, plutôt sympa, le maillot domicile. Traditionnel, voilà, classique, moi je dis. Mais et alors le maillot extérieur, lui, il se décline en rose et violet. Et alors mon polo, il fait beaucoup, mais alors beaucoup parler en Allemagne, il fait beaucoup débattre également. Il y a une grande campagne publicitaire et marketing qui fait grand bruit en Allemagne. Il y a une vidéo notamment qui a été publiée sur les réseaux sociaux par la DVB, la Fédé allemande, et où on voit d'ailleurs plusieurs joueurs, des joueuses également, avec ce fameux maillot. Ou d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'ils anticipent les critiques et qui sont survenues. Ils simulent des réactions des réseaux sociaux et répondent à ces critiques. Et cette campagne publicitaire et marketing, tu voulais l'évoquer, Polo, avec notre drôle d'âme.
C'est assez extraordinaire parce que j'ai toujours un problème, même si je le conçois. Est-ce que le football professionnel, quel qu'il soit, doit être à l'avant-garde des questions sociétales? Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Déjà parce que je rentre pas spécialement dans ce qu'on me propose. Je reste, moi, sur la question sociale comme un vieux con.
Moi aussi.
J'ai pas beaucoup évolué à ce niveau-là. Mais c'est extraordinaire ce que tu dis, Nicolas. Tu l'as très bien présenté. Donc, rappelons, le maillot à domicile, le Heimtrikot. Et je cite, pourquoi est-ce que j'ai dit traditionnel? C'est que je cite le fournisseur Adidas qui dit, c'est comme s'il ne fallait pas vexer les vieux, en gros, en disant, regardez, vous avez votre maillot. Et vous avez le nouveau maillot extérieur, où là, c'est quand même assez extraordinaire au niveau de la communication, pour, en gros, les fabuleuses nouvelles générations qui seront le public de demain, et en gros, demain, tout sera merveilleux, alors que nous, qui n'aimons que le blanc, par exemple, on est vraiment les vieux cons, c'est à peine si on va pas nous dire qu'on est raciste, on est conservateur, on est ceci, on est cela. Et donc, tout le débat est extraordinaire, parce que les médias s'en emparent, évidemment. Déjà, moi je croyais bêtement dans une vision nationale, quand ce n'est pas nationaliste, qu'un maillot représentait les couleurs de la nation. Hein, donc là, moi je ne savais pas où il y avait. Je cherche l'histoire évidemment de ces couleurs.
C'est le maillot extérieur, Polo. Je me fais l'avocat.
Je reste basique si tu veux sur la question. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que évidemment tous les journaux conservateurs le disent, mais c'est pas possible. Le journal Bild. En premier, évidemment, journal populaire et populiste, conservateur, de droite extrême, pour pas dire plus, sur certains sujets, qui dit, et notamment un éditorialiste qui s'appelle Wagner, qui est plus tout jeune non plus, qui dit le rose, mais ce n'est pas une couleur pour le football. Là, j'ai le sentiment de caresser mon adversaire, avec tout ce que ça comporte, évidemment.
Ah oui.
Ça, je cite son édito. Alors que nous, on veut mettre des coups. Le football est violent. C'est-à-dire que c'est ça ce qu'il dit, mais tu vois ce que ça veut dire derrière. Il y a quand même des petites réactions qui sont un petit peu spéciales. Et tu as de l'autre côté la Süddeutsche, évidemment, centre-gauche en Bavière, par exemple, qui, lui, qui regarde ça, qui dit, oui, alors oui, c'est bien, c'est dans l'air du temps, etc., LGBT, blablabla, et qui dit, mais peut-être qu'on va se mettre à mieux jouer. Donc, une couleur de maillot va te faire à mieux jouer. Je sais pas trop. Donc, tu vois, je cherche pas à savoir qui a raison entre les deux. Je regarde les arguments. Et puis, quelqu'un que je n'aime pas spécialement, Oliver Bierhoff, ancien manager, évidemment, de la fédération allemande, qui te dit, mais attendez, les gars, tout ça, c'est du marketing, c'est juste pour vendre des maillots. Et vendre des maillots à qui? Aux jeunes générations. Parce qu'il n'y a aucun vieux, il cite, il dit pas vieux, il dit aucune personne de 60 ans voilà, ne va acheter un
maillot. Je le cite, hein, il a fait une interview, effectivement, l'ex-DG de la Fédé, il dit, il m'est difficile d'imaginer qu'un homme de 60 ans aimerait porter ce maillot. En parlant du maillot rose et violet. Voilà.
Et donc, en fait, dans toutes ces, ce qui est, ce que je trouve très intéressant. Et puis, il y a le journal Kicker, qui fait toujours une fois par semaine son sondage. Plus de 150 000 personnes la dernière fois que j'ai été voir, les deux tiers des personnes ne trouvent que le maillot n'est pas beau. Donc est-ce que ça signifie que l'Allemagne est encore trop conservative sur certains sujets? Est-ce que ça veut dire qu'on nous vend quelque chose d'une nouvelle société demain très progressiste que finalement personne ne veut, que la grande majorité des personnes ne veut pas? Est-ce que, tu vois, je cherche pas la vérité absolue. Je dis juste que 7 euros 2024, où on m'a fait comprendre après la Coupe du Monde 2022 qu'il fallait peut-être un petit peu se calmer sur le rôle des joueurs de football à l'avant-poste de tous les sujets sociétaux, va peut-être falloir essayer de réfléchir vraiment à ce que c'est. Est-ce que ça doit être ça? Mais lorsque Oliver Bierhoff te parle, mais c'est que du marketing, moi je parle de pinkwashing, par exemple, tu vois, quand on parle de greenwashing, je veux dire, c'est juste pour vendre des maillots et que ça n'a rien à voir avec un nationalisme passer de l'Allemagne qui veut des couleurs traditionnelles et ceci. Et je trouve que la façon dont ça communique quand tu déconstruis un peu tout ce qui est dit, fait que c'est pas forcément bon, en tout, au minimum pour la société allemande, parce que tu sens les fractuosités de la société qui sont là. Les joueurs de football, je le dis souvent, ils s'intéressent, je les vois en Allemagne, je parle juste des Allemands, je les vois rarement me parler des scores de l'extrême droite dans l'ex-Allemagne de l'Est, par exemple. Par contre, pour dire, ah, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela pour la société, t'as l'impression que c'est la grande ville qui s'oppose à la province ou à la campagne, et toutes ces thématiques font que je trouve que la société allemande n'est pas tellement unie lorsque je vois les réactions des uns et des autres.
Il y a juste un truc que j'aimerais apporter à ça, parce que je voyais pas mal de messages, je voyais Léo qui disait débat inutile au possible. Dites-vous qu'en Allemagne, genre, mais c'est pas, c'est-à-dire, les JT parlent de ça. Enfin, je veux dire, c'est un vrai tollé. Il y a quand même un élément qui est important aussi, c'est que certains diront c'est que le maillot extérieur, mais la particularité de la Nationalmannschaft, c'est que même le maillot extérieur, la couleur, le fameux vert, il est traditionnel.
Exactement.
C'est-à-dire que là aussi, il y avait une tradition à toujours avoir un maillot vert, alors qu'il avait été d'ailleurs un peu refait pour rendre hommage, je crois que c'était au Flamengo au Brésil, lors de la Coupe du Monde au Brésil. Ils avaient mis une bande au milieu pour faire un clin d'œil, mais là aussi, par souci de marketing, c'est ce que Bierhoff explique dans cette fameuse interview. Moi, je me souviens, Fred, et on en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, en Espagne, il y avait une polémique aussi.
Politique aussi.
Voilà, politique.
Ouais. Bah oui, parce que là, c'est ce que dit Polo, c'est important, parce que c'est politique. Voilà. En Espagne, alors c'est lié à l'histoire de l'Espagne au XXe siècle, c'est-à-dire que les couleurs de l'Espagne, bien sûr, c'est comme dit, c'est les couleurs de la nation, comme dit Polo, c'est-à-dire le jaune et le rouge. Et en fait, en 2017, ils avaient rajouté une petite bande bleu foncé, quasiment mauve. Donc ça faisait mauve, jaune et rouge. Sauf que c'est les couleurs de la Deuxième République. C'est-à-dire celle qui a été
anti-monarchique.
Bah oui, qui a fait tomber la monarchie et qui après, suite au coup d'État de Franco, a été détruite par Franco, qui a imposé sa dictature. Donc en fait, mais la question, c'est que c'est très marqué politiquement. La Première République espagnole était libérale de droite. La Seconde République espagnole, donc avec ces couleurs-là, elle était socialo-communiste. C'est très marqué politiquement. Et donc, il y a plein de gens qui ont dit non, on ne peut pas politiser de cette manière. Alors c'était une erreur hein, de la part du
l'équipementier d'ailleurs
l'équipementier après
ouais. En fait c'est que le bleu et le rouge se rochaient, ça faisait du violet
du côté d'une manche, enfin tu vois, c'était pas truc, sauf que bah voilà, c'est, il faut faire très attention. Et l'équipementier, là on s'est rendu compte, n'avait aucune conscience de la culture et de l'histoire du pays, et c'est un problème, parce que quand tu dois créer un maillot, tu dois, surtout pour une nation, tu dois respecter ce qu'il y a, quoi.
Ouais.
Donc ça avait fait un scandale, et ils avaient d'ailleurs à l'époque reporté la présentation du maillot histoire de discuter comment ils avaient présenté le truc, etc. Donc oui, ça, il y a eu, c'était pas rien, parce que ça remontait quand même, ça faisait remonter la guerre civile. Il faut des gens cultivés. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand il y a des créations de maillots pour les clubs ou pour les sélections, qu'il n'y ait pas des représentants des clubs et des sélections au moment de la création.
Bah, normalement, ils le font, ils sont censés le faire.
Et là, ils l'ont, ouais. Parce que là, un mec qui connaît un petit peu son histoire d'Espagne, il vous dit, oh là là, ouais. On va avoir une merde si on a le violet, le rouge et le jaune, ouais. Enfin,
Julien, alors, moi, s'il y a bien une nation où je me dis, il n'y a jamais de dinguerie sur les maillots domicile ou extérieur, c'est l'Angleterre.
Je te jure.
C'est un truc de ouf, hein. Tu touches pas, quoi.
Mais je te jure. C'est clair. Et pourtant, ils en vendent plein, hein. Ils en vendent beaucoup. Les Anglais sont très patriotiques, vous savez, surtout quand il s'agit de sport. Pas que du foot, mais en général, rugby, cricket, tout ce que vous voulez. Donc, c'est vrai que ça reste blanc avec un petit peu de rouge, bien sûr. Ça reste bleu pour le match à l'extérieur en général. On a parfois un petit hommage au maillot d'il y a 20 ans, un petit peu comme l'équipe de France vient de le faire là encore cette année. Mais voilà, mais c'est tout. C'est vrai qu'il n'y a pas de...
folie.
De polémique, j'allais dire. Un petit peu comme chez Polo, ça n'existe pas trop chez nous, non.
Johan, t'as souvenir, toi, en Italie, qu'il y a eu des...
J'étais en train de réfléchir et de me replonger dans les archives parce que j'avais rien en tête, justement, d'énormes polémiques, genre jouer en rouge ou un truc comme ça. Et...
Je sais qu'il y avait le maillot vert extérieur, là, qui avait fait un peu jaser. Là,
oui, le récent, là, ouais. Qui était un espèce vert d'eau.
Ouais. Mais je crois qu'il y avait aussi un clin d'œil, et puis c'était un maillot extérieur.
Oui, mais ça, le clin d'œil, on le trouve toujours dans le storytelling des maillots. Bon. On sort toujours le fameux maillot de Lyon violet, là, c'était la soie, les chemins de la soie, Lyon de la soie, etc. Donc, on trouve toujours dans le storytelling quelque chose à raconter autour des maillots. Après,
mais il faut pas commettre d'erreur. Tu vois, il faut réfléchir aux conséquences. Tu vois, il faut au nom de la créativité du genre on va faire ça. Mais par exemple, tu vois le maillot de l'équipe de France. Hein, moi, j'aime bleu, blanc, rouge, et puis tout blanc. Le
bah là, moi je trouve les nouveaux là, ils sont plutôt réussis. Hein. Je sais pas, vous avez vu ou pas là, les nouveaux là.
Oui, mais on respecte quand même.
Les cuissons un peu gros quand même.
Bah après, c'est un petit clin d'œil, mais c'est vrai qu'il est un peu balèze.
Il a bien mangé le coq. Quoi.
Après, j'avais bien aimé moi la marinière en équipe de France.
Qui avait pas mal marché, je crois.
Qui avait pas mal marché parce que
c'est Jean-Paul Gaultier, clin d'œil
français. Et puis parce que la marinière, c'est vraiment français quoi. Il y a vraiment une histoire. Vous savez combien, vous savez ce que représente le nombre de rayures?
Non,
le nombre de victoires de Napoléon.
Ah ouais, c'est vrai.
J'aime moins d'un seul coup. Là.
Ouais, c'est vrai. Non.
En plus, il y a une règle pour que ça jamais gagné la Coupe du Monde.
Qui est un nombre exact de rayures blanches et bleues. Et je ne sais plus combien il y en a, mais c'est le nombre de victoires de bataille remportées par Napoléon.
Et tu sais ce que c'est les bandes blanches?
Non.
Moi non plus. Mais du coup, on s'en fout un peu. Messieurs, on va passer à la minute anglaise.
Non, mais tu sais pourquoi il y a des marinières? C'est que qu'on puisse les retrouver les marins quand ils tombent à l'eau.
Ah oui.
Ah mais bien sûr, c'est pour ça.
Non, mais je te crois.
C'est pour ça que c'est vivant.
Oui, je te crois.
Bah, c'est vivant, c'est que ça se voit quoi.
Je sens que t'as envie d'écouter de la musique anglaise.
Ah ouais.
Vas-y, Fredo.
My way. You turn me on. Ah, c'est bien ça aussi. Je vais être en troisième.
Ah, c'est vieux alors.
Ah oui.
285.
Ah ben, j'étais en troisième.
J'étais en troisième.
Je repiquais ma troisième.
Alors, t'as choisi ce son pour nous parler de la Women's Super League, le championnat féminin anglais dont l'édition est en cours. Et d'ailleurs, beaucoup de suspense hein, dans le championnat d'Angleterre féminin.
Ouais, très passionnant. C'est Alive and Kicking, bien sûr, de Simple Minds. Je suis sûr que Polo avait reconnu. Le refrain, vous reconnaîtrez tous le refrain. Je arrêterai de parler pendant le refrain. Et Polo pourra remonter le son. Ouais, parce que cette WSL, elle est vraiment, vraiment passionnante. On avait une course au titre à 3 avec Arsenal, Chelsea et Manchester City jusqu'à vendredi soir ou à Stamford Bridge devant 40 000 personnes, quasiment 40 000. On a eu un très beau Chelsea-Arsenal avec une large victoire des Blues 3-1 avec une Lauren James, la sœur de Rhys, donc excellente, encore une fois exceptionnelle. Il y a beaucoup de blessés côté de Chelsea, il y en a quelques-unes côté Arsenal aussi, mais c'était un match de très très haut niveau. Et donc ça nous laisse maintenant, parce qu'Arsenal est un petit peu décroché, un mano à mano entre Chelsea et Manchester City. Elles ont le même nombre de points, 40 points. Il reste 6 matchs à jouer, 6 journées, une différence de but quasi similaire, plus 32, plus 34. Donc on aura vraiment une vraie vraie belle et passionnante course au titre jusqu'à la fin entre ces deux là Et voilà, je trouvais que c'était intéressant d'en parler, vraiment important. Les deux se sont déjà rencontrés, Chelsea et City, des deux fois. Donc il n'y aura pas de finale comme on pourrait l'appeler, un petit peu comme chez les garçons d'ailleurs. Ça se jouera donc ailleurs. Mais c'est vraiment une très belle saison encore en WSL. On a déjà parlé hein, à l'Emirates, à Stamford Bridge, à l'Etihad, partout, à Old Trafford aussi. Beaucoup de grosses affluences. C'est très bien aussi. Et Chelsea qui est encore qualifiée en Ligue des Champions d'ailleurs, dont les quarts de finale de la Ligue des Champions féminines sont cette semaine.
avec le PSG, avec Lyon, avec Chelsea, avec le Barça de Fredo. Donc voilà, Chelsea sur les deux tableaux. Ils ont aussi une finale de Coupe de la Ligue à jouer contre Arsenal à la fin du mois de mars. Donc plein de belles choses pour Lauren James et Emma Hayes. Et on en parlera peut-être une prochaine fois, mais juste pour finir, Emma Hayes qui a un petit peu créé la polémique cette semaine, donc l'entraîneuse de Chelsea qui va partir ensuite à la fin de la saison pour coacher les États-Unis, qui a dit que les relations à l'intérieur même d'un club entre coach et joueuse ou entre deux joueuses, comme ça arrive parfois, on le voit dans la division 1 en France par exemple, c'est le cas en Angleterre aussi. Elle a dit que c'était négatif. Enfin, je sais plus exactement le mot qu'elle a utilisé, mais voilà, elle a créé un petit peu la polémique. Elle est revenue sur ses propos vendredi soir après le match. Mais je trouve que c'est un débat très intéressant parce qu'effectivement, c'est des cas de figure qu'on voit assez souvent dans le football féminin.
Qu'est-ce qu'il y a, Fredo?
21 rayures.
Il y a encore Loki, il y a encore quelques.
Ah non, non, mais ça, voilà, là, c'est.
Je pour dis, pouvoir... ça t'intéresse pas à ce que je dis, hein.
Pour... Non, non, mais non, si, mais j'écoute. Non. Mais non, mais parce qu'on part en pub, donc. Voilà. C'était pour. Voilà, parce que j'aime bien ces histoires-là.
D'accord.
Puis Napoléon, quand même, c'est pas rien, quoi.
C'est clair.
Et pour pouvoir avoir le titre de marinière, il faut avoir 21 rayures.
Voilà. Ok, Julien.
Voilà, merci.
Mais bravo, hein, parce que Simple Mind, c'est vachement bien. Hein.
Ah ouais. Depuis que Daniel De Rossi a repris la Roma, l'équipe ne fait que gagner, ou presque. Peut-on parler de révolution, De Rossi? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Johan Crochet va nous expliquer tout ça. Tiens, je vous invite également, Johan Crochet, bien sûr. Ça le fait marrer en plus. 32-16, hein, venez poser vos questions au Drôle de Dame à partir de 21h45. Hein, Johan Crochet, Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel vous attendent au 32-16. À tout de suite avec les Drôles de Dame.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Japonais.
Excellent, Polo. Il est à perfection.
Bravo.
Il est chaud ce soir.
Oh la vache. Ah, j'aimerais bien avoir le refrain japonais, ça va être un truc de ouf, mon pote.
C'est cool, j'aime bien. Jacques Rombaud, il prend des royalties. Tu sais que c'est la chanson qui rapporte le plus d'argent.
Ah ouais,
ah
ouais.
Ah non, mais toutes les secondes, on joue cette chanson quelque part dans le monde.
C'est incroyable ça.
Des musiques d'ascenseur, après ça, il prend et tout, le mec, est milliardaire.
Pour racheter. Oh, c'est beau. Vas-y, monte le son, mon Paul.
Fred ?
Comment ?
Le celui qui palpe, c'est
Jacques Revaux.
Je croyais que c'était Gilles Thibault, moi, qui avait.
Non. Crasse. Tu regardes, la chanson, c'est Claude François, Jacques Revaux.
Voilà, alors si on fait ça, vous écouterez le podcast, hein, pour ceux qui n'ont pas écouté le début, comme dirait Jean Bretagne. Et oui, c'est pas bien, et oui, mais vous écouterez le podcast, on est disponible. C'est parce qu'on a commencé par une belle chanson, My Way. Qu'est-ce qu'il a annoncé d'ailleurs ce soir, je sais plus.
C'est moi ?
C'est toi, oui, bien sûr. Avec tes. C'est toi, mon yo. Bah, justement, on revient vers toi, mon yo. En Serie A, quelque chose se passe à la Roma, yo. Mmh. La Roma qui a battu Sassuolo ce week-end 1-0. Et alors, depuis que Daniel De Rossi a remplacé Mourinho, c'est 7 victoires en 9 rencontres de championnat. Est-ce qu'on peut pour autant parler de révolution? Est-ce que les chiffres déjà sont parlants au-delà de ce 7 victoires en 9 matchs?
Ouais, les chiffres sont très très parlants. Donc la Roma, quand il arrive mi-janvier, est 9e, 29 points en 20 matchs de championnat. C'est-à-dire 1,45 points par match. Ils sont à 4 points de la 5e place. Et donc, après les 9 matchs de Daniele De Rossi, donc après 29 matchs de championnat, ils sont 5e. Ils sont passés de la 9e place à la 5e place. Ils sont à 1,75 points par match maintenant sur l'ensemble de la saison. Mais avec De Rossi, ils sont à 2,44 points par match en championnat. Ils ont repris 12 points à la Lazio et à la Juve, 8 points au Napoli et à l'Atalanta. L'Atalanta a un match de moins. Donc, ils sont bien remontés au classement. Ils ont aussi été sur cette phase de 9 matchs l'équipe qui a marqué le plus de buts en Serie A, et ils sont la deuxième équipe derrière l'Inter à avoir pris le plus de points. Donc effectivement, rien que sur les chiffres déjà, la tendance est assez claire.
Alors il y a les stats, et il y a le jeu aussi. Est-ce que le jeu il a évolué tant que ça avec De Rossi par rapport à la période Mourinho?
Ouais, il a beaucoup évolué. Alors, sans même parler forcément de schéma, parce que c'est pas forcément le plus intéressant, mais déjà il est parti sur une défense à 4 la plupart des matchs. Ce que Paulo Fonseca et José Mourinho disaient impossible à la Roma, étant donné le profil des défenseurs. Où ils disaient c'est impossible avec ces défenseurs centraux-là de jouer à 4. Daniele De Rossi, pour le moment, réussit. Le jeu, c'est évidemment beaucoup plus d'action offensive, être protagoniste, ne pas simplement défendre et attendre l'erreur de l'adversaire pour mieux piquer en contre, c'est être beaucoup plus actif avec le ballon, c'est avoir des circuits préférentiels pardon, qui sont assez clairs, avoir des joueurs entre les lignes, avoir des joueurs, des latéraux beaucoup plus hauts sur le terrain aussi, même plus haut que parfois quand il y avait une défense à 3, notamment Karsdorp, quand il est sur le côté droit, il est assez haut. Il y a aussi une série de joueurs qui sont en train de retrouver un niveau de jeu assez conforme à ce qu'ils avaient montré jusque-là. Je pense à Lorenzo Pellegrini, le capitaine, qui a totalement changé. Et après le match, le diffuseur, c'était donc hier le match, lui dit « Mais comment on peut expliquer une telle différence ?» Il dit « Bah, je me suis beaucoup posé la question aussi, parce que moi j'étais dans une mauvaise période depuis plusieurs mois. » Et il dit « Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je suis au centre du jeu. » Et que j'ai besoin de toucher le ballon, j'ai besoin de me sentir un peu libre, de pour aller à gauche, pour aller au centre. Et il dit, je retrouve ça aujourd'hui dans le fonctionnement de De Rossi. Donc, je pense à Paredes évidemment. Paredes, le pauvre lui, il avait connu quand même Allegri pendant un an et Mourinho pendant six mois. Et c'est vrai qu'en termes de football, Mourinho a apporté plein de choses à la Roma. Franchement.
Mais d'ailleurs, le discours que t'as là, c'est un peu le discours que tu tenais quand Mourinho est arrivé, non?
Ouais, ouais, exactement. Ouais. Donc, Paredes retrouve, alors on sait qu'en plus, ils sont très liés les deux. Quand Paredes revient à la Roma, enfin, quand il arrive à la Roma, pardon, non, quand il revient, puisqu'il y avait déjà eu un passage, il appelle De Rossi pour lui dire, est-ce que ça te dérange si je prends le numéro 16, qui est ton numéro? Donc, ils s'entendent déjà très très bien, etc. Spinazzola, Celik, par exemple, l'ancien Lillois aussi. Ouais. Est en train de prendre une belle dimension. Il choisit de mettre Svilar dans les buts à la place de ton ami Rui Patricio, qui était devenu une vraie passoire, et donc c'est pas plus mal d'avoir mis Svilar dans les buts. Donc casser un statut important, Rui Patricio quand même, un joueur d'expérience. Et puis autre chose, quand on avait... c'est pour faire le lien avec la partie presse communication.
Alors, c'est te dire parce que José,
le lien justement, c'est que
parfois, lui, c'est comment?
C'est que bah José, il te disait quand il y a pas Dybala, pour nous c'est trop compliqué.
Ouais.
Et la Roma te répond sur 9 matchs, 10 buteurs différents. Un niveau de jeu qui est très très intéressant pour le moment. Qualification aussi quand même face au Feyenoord en play-off et face à Brighton en 8e de finale de Ligue Europa. Alors, Mourinho l'avait fait aussi, ça. Hein. Il était passé jusqu'en finale hein, et passé pas loin de gagner une deuxième Coupe d'Europe avec la Roma. Au niveau de la com, évidemment, tout est plus facile parce qu'il n'a pas ce mécanisme de volonté d'entrer en conflit avec la presse. Qu'à José Mourinho, tu pouvais lui parler du beau temps, il t'aurait dit blanc alors que c'était noir, mais juste pour te contredire, juste pour amener...
Non, il est créatif.
Voilà, exactement. On peut dire ça comme ça. Donc il y a beaucoup plus de je sais pas si c'est de respect, mais en tout cas de volonté chez De Rossi d'expliquer ses choix de joueurs, ses choix tactiques. Il est très humble aussi, ce qui change aussi beaucoup avec José Mourinho. C'est deux typologies de coachs différents, mais encore une fois, ne pas oublier ce qu'a fait José Mourinho à la Roma. Une Coupe d'Europe, c'est pas rien non plus. Une deuxième finale en deux ans, ça n'a été jamais arrivé. C'est la moitié des finales de Coupe d'Europe hein, de la Roma qu'a fait Mourinho en deux saisons, donc il faut quand même aussi s'en souvenir. Effectivement, cette humilité-là, quand il te dit après un match à la Fiorentina, bah, en fait, je me suis planté, j'ai mis une défense à 3 en début de saison de match et ça fait la troisième fois que je le mets après un match de Coupe d'Europe, trois fois qu'on est mauvais, donc peut-être qu'il faut que j'arrête avec ça et qu'il y a un rejet de la part des joueurs de ce système-là. Mmh. Voilà, c'est quelque chose que tu n'entends pas chez tous les entraîneurs, donc pour l'instant ça marche très très bien, les supporters sont très heureux, il y a encore une banderole dans le stade avant le match contre Sassuolo, donc pour le moment ça marche bien. Précisons quand même que le calendrier va légèrement s'alourdir du côté de la Roma, puisque il y a une série de matchs. Après la trêve, ils reprennent à Lecce. Donc, club, attention, pas toujours très simple, très agressif. Beaucoup de dynamisme aussi, donc pas forcément simple, mais grosso modo abordable. Derrière, c'est Lazio, donc le derby. Milan en Europa League, Udinese. Milan en Europa League, Bologne, Naples, Juve, Atalanta. Tout ça à la suite.
Ouais, c'est pas,
donc
c'est pas
ça va commencer à devenir un petit peu intéressant.
D'ailleurs, j'ouvre juste la parenthèse, parce qu'on a eu l'information juste avant de démarrer les drôles de dames. Igor Tudor, nouvel entraîneur de la Lazio.
Effectivement.
Donc, Guendouzi, aujourd'hui, ça a été ascenseur émotionnel. Il est rappelé en équipe de France en l'absence de Griezmann et il retrouve Tudor.
On verra, mais ce que j'aime chez Guendouzi, c'est qu'il a fait un très gros début de saison pour le moment. J'espère que ça va continuer parce que vraiment. Dans ce profil-là, le meilleur joueur de la Lazio cette saison, c'est entre Provedel, le gardien, ce qui est déjà pas un bon signe pour la saison de la Lazio, et Luis Alberto, qui est le créatif, le joueur par qui toutes les actions offensives passent. Mais Guendouzi est juste, il est dans cette zone-là, il est vraiment excellent, amène du dynamisme, un très bon caractère aussi, où parfois à Rome t'as des béni oui, il faut un peu leur les pousser, etc. Lui il est pas du tout là-dedans, donc on verra comment ça va se passer avec Igor Tudor. Mais en même temps, il y a pas 50 alternatives pour des postes de pour un double pivot, ouais, de meneur axial. Il y en a pas 50 qui sont en capacité d'apporter ce qu'apporte Guendouzi.
Alors il y a la hype de Rossi qui fleurit à Rome. J'aimerais juste qu'on dise un mot sur la hype de Gérone, qui semble avoir fait son temps en Liga. Alors on rappelle, ils ont perdu ce week-end à Rétafé. Ouais. Ça fait 4 défaites sur les 6 derniers matchs pour Gérone. Mmh. Ils ont compté une sur les 23 précédents matchs de championnat. Ils sont toujours sur le podium avec 7 points d'avance sur le 5e qui est maintenant l'Atlético. Tu le disais tout à l'heure. Est-ce qu'ils peuvent vraiment s'effondrer, laisser filer ces 7 points d'avance, Fred?
Moi, je rappelle, il y a 27 points à prendre. Le risque est réel. Le risque est réel. Rappelez-vous, depuis toute la saison, on se disait, est-ce qu'ils peuvent aller au bout et tout ça? Et en Espagne, on disait, oui, mais ils n'ont pas encore eu leur mes malo. Le mauvais mois. C'est-à-dire que toutes les équipes ont un mois où tu as une petite fringale. Là, c'est évident, c'est maintenant. Le mois de mars, ça a vraiment été pas bon pour, mars, c'est vraiment pas bon pour cette équipe de Gérone. Moi, je pense que c'est quelque chose d'absolument fantastique que doit gérer Michel, l'entraîneur. C'est-à-dire que c'est une équipe très bien entraînée, qui était un peu en sur-régime quand même, hein, tout le temps, qui était au-dessus de son niveau. Deuxième, premier, deuxième, la plupart du temps. C'est une équipe qui était en sur-régime par rapport à son budget et par rapport aux forces en présence. C'est normal que ça redescende un petit peu. Moi, je pense sincèrement que cet entraîneur-là a un challenge fantastique, c'est d'éviter que ça s'écroule.
Ouais.
Et je trouverais encore plus fort d'éviter que ça s'écroule que ce qu'il a fait jusqu'ici. J'espère que je me fais
comprendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Tu vois, c'est-à-dire que mentalement...
C'est-à-dire qu'il aura tenu sur la durée.
C'est-à-dire que mentalement, il aurait été capable de gérer différentes situations dans la saison. De gérer une euphorie et de gérer ce qui peut être une dépression. Ouais. Parce que quand t'as pas l'habitude de perdre dans une saison, ça arrive... Puis, tu sais, c'est Chirac qui disait ça, les emmerdes, ça va dans l'escadrille, quoi. Ouais. Donc, il y a une espèce d'enchaînement de trucs. Mais, et donc... Et quelque part, c'est la saison de Gérone qui se joue maintenant. Parce que si jamais Gérone n'est pas dans les 4 premiers, franchement, on va vite oublier ce qui s'est passé.
Ouais, mais est-ce que toi, t'as pas peur qu'il y ait une crise de croissance s'ils vont en Ligue des Champions l'année prochaine? Déjà, ils vont se faire payer leur
joueur.
Voilà,
oui,
ils vont perdre tout le monde. Michel, Fabio, ça se trouve, l'entraîneur, il va se barrer.
Le latéral, Miguel Gutiérrez, il est possible qu'il aille au Real. Dobby, bien entendu. Enfin, tu vois, bien sûr, ils vont se faire payer, bien sûr. Mais l'important, c'est de là maintenant, l'année prochaine on verra, là maintenant, voir ce qui se passe là maintenant. Et moi, ce qui me ferait peur, si jamais il n'était pas en Ligue des Champions la saison prochaine, c'est qu'on se dise, oui, c'était sympa Gérone, c'était lié au fait que la Liga était pas géniale cette année, et qu'on oublie tout ce qu'ils ont fait et tout le beau jeu qu'ils ont montré. Tu vois ce que je veux dire? C'est maintenant qu'on va juger une équipe qui, quoi qu'il arrive, a fait une saison extraordinaire. C'est une équipe qui normalement était là pour rester en première division sans trop de difficultés. Et ils vont jouer l'Europe, hein, quoi qu'il arrive. Mais ne pas jouer la Ligue des Champions, ce serait quand même gâcher finalement ce qui a été fait au niveau de l'image. Et ce serait injuste en fait. Et moi, je trouve que si Michel est capable de gérer ça et de terminer dans les 4 premiers, franchement, le mec, le CV qu'il est en train de se faire là sur une saison, c'est impressionnant, quoi.
Après, ça c'est un truc à part. Mais s'il se qualifie, ça va être un sacré délire avec les règlements de l'UEFA, vu qu'ils font partie du City Group. Yo, pour finir.
Non, ce que tu disais, c'est intéressant. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour eux?
Ouais.
Non, je parlais de Nico.
Désolé, ouais,
non,
mais
c'est quoi qui détruit bien?
C'est gentil d'un coup là. Ça fait bizarre là.
Parce qu'en fait. Pour ces clubs-là, je pense aussi à Brest en Ligue 1, je pense à Bologne en Italie, je pense même au Napoli de la saison dernière. En fait, il ne faut pas raisonner sur ce qu'il y a après. En fait, il faut juste leur souhaiter de vivre le truc à fond.
Mais bien sûr.
Parce qu'en fait, ça, c'est des souvenirs, des vrais souvenirs.
Et oui, tu as raison.
Et que, en fait, Gérone, si demain ils sont en série B, en Liga 2, on s'en fout, en fait.
Ouais.
Mais même eux, je ne vais pas dire qu'ils s'en foutent, mais.
Ils auront vécu un truc.
Ils auront vécu un truc qu'ils ne revivront jamais. Brest, c'est pareil. Si on leur dit, ouais, mais peut-être que dans 2 saisons, vous n'aurez pas digéré la Ligue des Champions, ils vous seront en Ligue 2. So what? Enfin, Brest, ils ont été médaillés en Ligue 2, c'était pas grave. Bologne, ouais, mais si après vous êtes 14e, et alors? T'auras fait une saison exceptionnelle, où t'auras rêvé.
Et puis tu peux très bien finir 5 foot, ou 6e en fait. Et finir relégable la saison suivante aussi, hein. Donc,
voilà, c'est forcément la Ligue des Champions.
Et à la fin, je vais pas dire qu'on aura oublié Gérone, mais s'ils sont pas dans les 4, cette aventure-là, elle aura pas la même saveur, quand même. Franchement, on n'aura pas le même souvenir. Alors que ça mérite, quoi qu'il arrive, ça mérite qu'on se souvienne
de ce qu'ils ont fait. Parce que Bologne, j'entends la même chose. Oui, Thiago Motta, il sera plus là. Zirkzee, il sera plus là. Peut-être que Ferguson ne sera plus là.
So what?
Très bien. Mais en fait, juste, on aura fait une saison de dingue. où tu seras passé devant les clubs romains, tu seras passé devant le Napoli. Le Napoli cette saison, bah ouais, c'est pas drôle, c'est pas génial ce qui se passe au Napoli. Mais l'année dernière, tu aurais dit là, au début de saison dernière, tu finis champion et la saison d'après tu galères. Tu crois pas qu'ils auraient signé?
Alors bien sûr moi, que si. Tu ne remarques pas les choses intéressantes que je dis, mais moi je vais
pourtant,
dire.
Il y en a pas beaucoup, on devrait les voir.
Ouais, c'est pour ça, on devrait les surligner en jaune fluo là. Mais ce que tu dis, regarde, ce qui s'est passé, ce que nous on a vécu les supporters en soi. Moi cette saison, ne pas souffrir et ne pas descendre en D2, ça me suffit. Parce que ce qu'on a vécu là depuis la fin de la saison dernière, mais c'est exceptionnel. On a 8e budget de Ligue 1, on finit 2e à un point du PSG, on va directement en Ligue des Champions. C'est des souvenirs, tu vois. Moi, ça faisait 20 ans que j'ai pas vu ça. Il y a plein de gamins qui ont découvert Lens en Ligue des Champions cette saison. Donc oui, il faut prendre.
Eh bien, messieurs. On va parler de souffrance dans quelques instants. La course au maintien en première ligue.
Je pensais que tu parlais de la musique allemande.
T'inquiète que Paul.
Tu te fais des copains toi ce soir.
T'inquiète que Paul, il bosse. Ouais. Tu dis rien Polo toi. Tu laisses passer des trucs comme ça.
Mais il sait Polo que j'aime bien celle-là.
Bah, tu sais quoi, il a même pas envie de répondre hein, Polo. Dans quelques instants, la course au maintien en première ligue notamment.
Je suis encore sur la Barbie Mannschaft.
Ah tiens encore là. Il est resté Kevlo sur le maillot. Mais si le maillot le maillot rose. Moi je le trouve plutôt pas mal.
En fait c'est ça qui est terrible. Le maillot est pas mal. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans les médias de droite comme de gauche, on parle de Barbie Mannschaft, donc d'équipe Barbie, avec tout ce que ça veut dire.
Ouais.
Tout ce que ça peut signifier dans l'imaginaire des gens.
Je vois ce que tu veux dire.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas Schumacher, quoi.
Dans la Barbie Mannschaft. Pas Schumacher, en fait. Voilà. D'ailleurs, mais il n'y avait pas faute quand même. Hein,
il y avait un petit coup de cul.
D'ailleurs, pour ceux qui disent le rose. Léger coup de cul, léger. Pour ceux qui disent le rose, c'est pas une couleur de foot, je crois que le maillot original de la Juve, c'est un maillot rose. Ouais. Voilà. Et exactement. Je crois qu'il joue en. Il change de maillot parce qu'il est en rupture et ils sont livrés un maillot Newcastle.
Pas un club de foot non plus, quoi.
Oh qu'est-ce que je l'aime, mon Polo, quand il est comme ça. Allez, à tout de suite avec les drôles de dames.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Julien Laurence, Johan Crochet, Paul Breitner, Fred Hermel sont avec nous. On vous attend au 32-16 pour venir poser vos questions aux drôles de dames. On va parler un petit peu de la course au maintien en Première Ligue. Alors ce week-end, tout le monde n'a pas joué d'ailleurs en PL, hein, parce qu'il y avait la FA Cup qui jouait également. Il y avait un duel de mal classé entre Luton Town et Forest. Il y a eu un partout. Tiens, juste avant d'évoquer ce qui se passe avec Forest, on a appris ça tout à l'heure, ils ont pris 4 points de sanction. Julien, je voulais juste que tu nous dises un mot.
Il n'y a pas que les Italiens qui trichent. Ah bon?
Ah non, mais ils trichent pas. C'est-à-dire,
ils trichent pas,
ils ont trop d'argent. Ils ont trop d'argent.
Ah oui, voilà, ah oui, ils respectent pas, les règles, mais ils trichent pas.
Non, ils trichent pas.
Ah oui, triche, c'est italienne, c'est vrai.
Non, parce que c'est du dopage financier. Toi, c'est du dopage tout court. Voilà.
Aucun tricher à deux balles.
C'est une façon de dire les choses.
Non, mais voilà, t'as
nous, on n'achète pas les arbitres, nous, tu vois, par exemple.
Ouais. Non. Bah non, eux, ils les font, les arbitres. Je voulais juste que tu dises un mot, on déconne bien sûr, sur Luke Berry, qui est un joueur qui est rentré dans l'histoire, alors de Luton Town, mais également du football anglais.
Ouais, parce que c'est très rare, effectivement. Il est devenu le premier joueur dans l'histoire de Luton de marquer au moins un but dans chacune des 4 divisions professionnelles d'Angleterre. Donc, la première ligue, le championship, la deuxième division, League One, troisième division, et donc League Two, quatrième division, puisque Luton, on l'avait rappelé quand ils étaient promus, est passé par toutes ces divisions-là pour revenir, donc, dans l'élite, comme, qu'ils avaient laissé il y a 20 ans de ça, ou quoi que ce soit. Et donc, Luke Berry, qui joue jamais cette saison, il a 9 apparitions, il a joué 60 minutes en tout, dans toute la saison, il a jamais été titulaire. Là, il entre en jeu dans le match peut-être le plus important de la saison contre Forest, qui est juste au-dessus de Luton. Ça, c'était avant, en plus, la pénalité de points contre Forest. Il entre en jeu et trouve le moyen de marquer à la 90e minute le but égalisateur à domicile incroyable. Le pauvre, il a été interviewé à la fin du match. On lui dit, alors, ta famille, elle devait être super contente dans les tribunes, tes copains et tout. Mais non, il y avait personne qui était venu, en plus. Enfin, personne n'avait vu venir, quoi, le truc. Incroyable. Et donc, voilà, bravo à lui, à Luke Berry, qui marque dans les quatre, divisions professionnelles. C'est pas le premier, d'ailleurs, il avait aussi marqué en 5e division, donc la première division semi-pro chez nous, mais c'était pas avec Luton, c'était avec Cambridge United. Mais voilà, donc chapeau à lui. Je sais pas si on le reverra jouer, hein, mais en tout cas, ce match nul-là amène encore un peu plus de piment à cette course contre la relégation qui est assez incroyable.
Alors, c'est vrai que tu le dis, elle est incroyable. Elle est d'autant plus depuis ce soir, puisque Nottingham Forest a pris 4 points de pénalité. Alors, en gros, ils n'ont pas respecté les règles financières. Et ils se retrouvent du coup, ils étaient premiers non relégables. Ils sont maintenant premiers relégables, avec un point de retard sur Luton Town qui sort de la zone rouge. Du coup, on a Everton qui a pris 10 points de pénalité. Ils ont 25 points. On a Luton Town, 22 points. Nottingham Forest, 21 points. Burnley, 17. Sheffield United, 14. Bon, on est d'accord, Sheffield est. Et Burnley, c'est mort.
Je pense que c'est fini. Bah, Burnley, avec la victoire ce week-end un petit peu inattendu, 17 points.
17, 21, tu vois, 22, c'est peut-être encore jouable pour eux. Mais bon, ça paraît compliqué. Mais c'est vrai que les points perdus par Forest aujourd'hui, ils ont 7 jours pour faire appel. Je pense qu'ils avaient été prévenus avant que ce serait 3 ou 4 points. Ça aurait pu être plus. D'ailleurs, à Everton, on comprend pas trop comment ils ont pris que 4 points alors qu'Everton avait pris 10, réduit ensuite à 6 après l'appel. Alors que Forest a dépensé plus d'argent, donc a plus dépassé les, pour rejoindre ce que disait Johan tout à l'heure, très justement d'ailleurs, a plus enfreint la règle et a plus du fair play financier anglais, a trop dépensé par rapport à ce qu'ils auraient dû, beaucoup plus qu'Everton, et ils prennent moins de pénalités finalement. Donc c'est un peu difficile à comprendre. Ça s'explique rapidement par le fait qu'ils ont été, ils ont collaboré, ils ont coopéré dès le début en expliquant très clairement où ils en étaient, pourquoi ils en étaient arrivés là. Ils ont notamment expliqué que la vente de Brennan Johnson, leur star issu du centre de formation, avait été faite très tard, jusqu'à la fin le dernier jour quasiment du marché des transferts, donc le 1er septembre, alors que tes comptes se terminent le 30 juin, ce qui d'ailleurs en soi, petite aparté, est complètement ridicule, parce que on juge tes comptes, autant les juger jusqu'à la fin du marché des transferts, puisque c'est là, en général, quand tu veux équilibrer tes comptes, que tu vas faire des ventes, forcément, il n'y a pas que Forest, hein, y a beaucoup de clubs dans ces cas-là, même les clubs français d'ailleurs, qui font ça. Donc c'est ridicule d'arrêter tes comptes au 30 juin, alors que tu peux encore avoir des grosses rentrées d'argent jusqu'au 1er septembre. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Et donc voilà, c'est peut-être pour ça que Forest a moins été pénalisé qu'Everton. Everton d'ailleurs, à qui on attend une deuxième sanction, puisque eux aussi ont été donc pris par le fair play financier, le même que Forest, qui n'était pas le cas de la première sanction d'Everton. Et donc on pense qu'ils pourraient eux aussi prendre 3 ou 4 points supplémentaires qui rendraient cette course contre la relégation, donc au maintien, encore plus palpitante et excitante.
Sans faire là de la prédiction, tu vois qui descend, toi, Julien, du coup?
Moi, Forest est une meilleure équipe que Luton, un meilleur effectif. Alors c'est sûr, ils ont dépensé beaucoup trop d'argent sur les 18 derniers mois. C'est pour ça qu'ils sont maintenant relégables. Je sais pas, ce serait une histoire incroyable que Luton, dans leur stade archaïque de 11 000 places, arrive à se maintenir. Je pense quand même qu'au final, il leur reste 9 matchs là, je pense que Forest va se sauver, Everton aussi, et qu'on aura finalement les 3 promus, Burnley, Sheffield United et Luton, qui redescendront.
Tiens, un mot, puisqu'on parle des relégués, relégables également. Un mot sur la Salernitana également, Johan, en Italie. Eux aussi, ils sont bons derniers. Et alors eux, on l'a pris aussi juste avant l'émission. Ils vont avoir un quatrième entraîneur cette saison, puisque, comment il s'appelle? Il s'est fait virer, notre ami Liverani.
Ouais, Fabio Liverani, exactement. Et ça se joue entre soit un retour de Pippo Inzaghi, soit,
Mais qui s'est fait virer déjà cette saison,
ouais, par la Salernitana. Mais ça, non, tu sais très bien qu'en Italie, on ne casse pas les contrats, on les écarte de la direction de l'équipe première, on les garde sous contrat, et ils continuent à toucher leur salaire. Donc en fait, ils rappelleraient Inzaghi, parce qu'ils continuent à toucher son salaire de la Salernitana.
C'est incroyable ça.
Et c'est pour pas casser les contrats en fait. Et Colantuono, qui a déjà été l'année dernière entraîneur de la Salernitana. Ouais, exactement.
Ils ont qu'à faire un duo.
Pas l'année dernière, l'année d'avant.
C'est pour pas avoir payé trop d'indemnités.
Comme ça, s'ils signent ailleurs, ils n'auront pas le résultat.
C'est ça. Sauf que ça se vérifie plus ou moins, parce que les entraîneurs, avant de signer ailleurs, souvent ils demandent un bonus de sortie quand même au club, donc t'es pas loin de payer la totale quand même. Bref, ça se passe très difficilement cette saison à la Salernitana. C'est un peu le cas depuis que la Salernitana est remontée en Serie A. Beaucoup d'instabilité, les entraîneurs déjà, au niveau des dirigeants. On a eu Morgan De Sanctis, directeur sportif, qui a été aidé par Walter Sabatini sur le mercato l'année dernière en janvier, qui avait réussi à faire pas mal de recrues pour aider à ce maintien. Ils ont retenté le coup là cette année, mais en mettant Walter Sabatini directement directeur sportif. Sabatini, pour ceux qui de nos auditeurs, auditrices qui connaissent pas, c'est celui qui a fait venir les Pastore, les Cavani à Palerme, etc., qui ensuite était à la Roma. Il a fait venir les Lamela. Il a un gros carnet d'adresses sur le football sud-américain, notamment. C'est lui qui a fait venir Marquinhos, Castan.
C'est lui qui a fait venir Boulaïdia aussi ou pas?
Mais
c'est une perche que je te tends, parce qu'il faut quand même parler de cette histoire.
Ouais.
Donc il a refusé de rentrer en cours de jeu contre l'Udinese.
Exactement.
Il est suspendu par le club.
Exactement.
Ils veulent diviser son salaire par deux et lui réclament 20 millions d'euros d'indemnité. C'est ce qu'annonce la Gazzetta dello Sport aujourd'hui.
Alors, on n'a pas encore l'information de ce que demande Iervolino, le président propriétaire du club. Mais effectivement, il se murmure qu'ils veulent lui réclamer beaucoup d'argent, parce que ça a été un investissement très important, parce que c'est ton meilleur joueur aussi, et que finalement, dans cette saison où tu devais te battre pour la relégation, bah, t'as pas pu profiter de, des qualités de ton joueur. Donc, peut-être qu'il va demander de l'argent, 20 millions d'euros, j'ai du mal à y croire. Mais en tout cas, le salaire divisé par deux, c'est dans les mains du Comité National Olympique Italien. Donc, Comité Olympique National Italien, plutôt. On verra ce qu'il va décider. Mais effectivement, ça fait partie de cette saison galère, d'instabilité, où il y a beaucoup de joueurs qui arrivent. Là, en janvier, il y a 7 nouveaux joueurs qui sont arrivés en prêt. Donc, c'est pareil, tu prends des mecs qui sont pas bon dans un club, mais qui veulent venir se relancer, mais souvent ils sont pas prêts physiquement, donc faut le temps de les remettre physiquement, ils s'inscrivent pas dans la durée, ils viennent jouer leur carte perso, donc c'est très très compliqué. Et juste quand même, pour vous faire la liste des joueurs qui sont passés par la Ligue 1 et Ligue 2 française, donc, et qui sont aujourd'hui à Salerne.
Vas-y, ça va nous filer de...
Bradaric, qui était à Lille, Ochoa, passé par Ajaccio, évidemment, Costil, les deux gardiens, passés par Bordeaux et Auxerre et Rennes et je sais plus qui encore. Tchaouna, passé par Rennes et qui était ancien en Ligue 2, je sais plus par qui, quel club. Lassana Koulibaly d'Angers, Boulaïdia donc passé à Reims, Junior Sambia de Montpellier, Toba Basic de Bordeaux, pareil qui a pas laissé des souvenirs incroyables à la fois à Bordeaux et à la Lazio qu'il avait acheté pour quasiment 10 millions d'euros. Dylan Brown de Metz.
J'étais ça en fait.
Et Iron Gomis d'Amiens. Donc il y a une dizaine de joueurs passés par la Ligue 1, Ligue 2 et qui sont tous dans l'effectif actuellement. Pour certains c'est pas trop mal, pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tous les cas, il y a un effectif qui est trop juste en qualité, qui est très fourni en quantité, mais trop juste en qualité. Et ça va sans doute descendre, parce que maintenant, ils ont 11 points de retard sur le premier non relégué.
Avant d'accueillir nos auditeurs au 32-16, vous pouvez lâcher vos questions à la drôle de dame sur le chat de la chaîne YouTube de l'After également. Je vous propose une petite pause musicale, une musique douce et suave.
Adieu.
Rammstein, bien sûr, mon polo.
Rammstein, ça fait longtemps que j'avais pas mis un Rammstein.
C'est vrai, ça c'est bien, c'est vrai.
Ouais. Adieu, que... évidemment, on a appris aujourd'hui, même si ça courait, c'était dans le tube depuis quelques jours, que Christian Streich, figure du football allemand, légende du football allemand, 29 ans au club de Fribourg, allait passer la main à la fin de la saison. Il a fait un message, comme d'habitude, extrêmement émouvant sur les réseaux sociaux pour expliquer le pourquoi du comment. Donc il va sur ses 59 ans. Fribourg a vécu avec lui sa plus grande période historique, évidemment, avec ses deux huitièmes de finale à la suite en Europa League. Et si tu veux, ce qui est toujours passionnant dans ces genres de... Donc je rappelle, depuis je ne sais combien d'années, Fribourg a eu uniquement 4 coachs, dont un échec qui a duré quelques mois. Donc vous imaginez la longévité des coachs qui passent par Fribourg, dont on ne peut pas analyser ce club à l'aune de ce qu'on fait tous les 15 jours, est-ce qu'il faut changer de coach, etc. Là, il était coach depuis 2011, depuis le mois de décembre 2011, mais il était dans le club depuis 29 ans. Il avait joué aussi en tant que professionnel dans ce club-là. Il l'a fait monter petit à petit, etc. Et donc là, si tu veux, en Allemagne, c'est pareil, t'as l'impression que c'est le savoir du football allemand qui s'en va. Dans ces clubs-là, ce qui est toujours très spécial, c'est quelle est la transmission, qui va reprendre le flambeau derrière. On parle beaucoup de Julian Schuster, qui est celui qui avait vécu une période en Europa League, une campagne en Europa League en 2013, si ma mémoire ne fait pas défaut. Et tout ça, si tu veux, fait que Christian Streich, personne très atypique, qui a un accent très particulier, qui gueule, qui a souvent un peu chafouin, etc., qui s'est engagé dans des combats contre l'extrême droite en Allemagne, etc., il est adulé aujourd'hui par l'ensemble des clubs allemands et ils se disent, mais ce mec-là, quand même, qu'est-ce qu'il va ? Il va nous manquer. Et c'est ce genre
mais,
de coach,
mais ça veut dire, Polo, qu'il va vraiment se mettre en retrait du foot ?
Ouais, je pense qu'il va se mettre en... Il va peut-être aller chercher un poste à la fédération pour transmettre le savoir. Mais je ne pense pas qu'il va reprendre un autre club après 29 ans. Il le dit lui-même. Il dit, de toute façon, Fribourg, c'est ma vie. Donc voilà, ça me semble très compliqué d'aller chercher un autre club derrière. Rappelons juste, parce que Christian Streich dit oui, c'est juste Fribourg. Christian Streich était adoré par Uli Hoeneß. Et Uli Hoeneß avait fait, il y a quelques temps, avait révélé que le cas de Christian Streich en tant que coach du Bayern avait été évoqué. Il dit, si on avait été plus courageux à l'époque, il emploie des termes un peu plus vulgaires, on aurait pris Christian Streich pour coacher le Bayern Munich à une époque. Donc Christian Streich, c'est pas, si tu veux, c'est, il faut voir les coachs pas qu'en fonction de leurs résultats en Ligue des Champions où tu vas chercher, mais aussi en fonction d'où on est et par rapport au modèle du club.
Et l'impact qu'il a eu.
Ouais,
et puis c'est un personnage, tu l'as dit, il est très engagé politiquement, il mène des combats, il est grande gueule, il va manquer, certainement.
Il est chafouin, il est, enfin, c'est spécial.
Eh ben merci Paulo, bel hommage à tu revoulais du Rammstein, ouais. C'est vrai.
Adieu.
Ça, j'aime pas du tout. Voilà. Venez poser vos questions aux drôles de dames. 32-16, on vous attend. Max vous attend au standard. Le chat de la chaîne YouTube de l'After également. Venez poser vos questions à Yoann Crochet, Julien Laurence, Paulo Breitner et Fred Hermel. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Et les drôles de dames sont là comme chaque lundi. Vous êtes très nombreux à nous appeler au 32-16 ce soir pour poser vos questions aux drôles de dames. Vous êtes très nombreux également sur le chat de la chaîne YouTube.
C'est qui le plus aimé
de l'after. Je pense que tout le monde. Moi perso, je vous aime tous. Hein. Sachez-le.
C'est gentil.
De façon différente, mais je vous aime
tous.
De toute
façon, on sait.
C'est, tu sais quoi ?
Qui est le plus populaire ?
C'est qui ?
Ah, j'ai une petite idée quand même.
Vas-y, dis.
Ah, oh, c'est gentil.
Ah, c'est moi.
Ah, le boulard.
Non. Non.
You're welcome.
Non, parce que toi t'es plus riche.
What a non, plus beau, juste plus beau, ça suffit. Plus beau et meilleur à la radio.
Quel acteur d'Hollywood t'as croisé derrière une vitrine d'une.
Ah, qui t'a reconnu? Ah, you're the children Roland, c'était le frère.
Alfie Allen. Hey, vous pouvez le voir dans Game of Thrones. Allez regarder Game of Thrones, vous le verrez.
C'est vrai que de nous quatre, le plus beau, c'est Julien.
Ah bah ça c'est
ouais, oui,
mais après pareil, vous êtes tous beaux, mais chacun votre
façon. Ouais mais lui plus. On est tous égaux, mais lui plus égaux.
Ouais, il est un peu plus égaux que vous, effectivement. Bah tiens, puisque c'est toi le plus beau, la première question elle est pourtant la Marvin, supporter de Lille, qui nous a appelé au 32-16. Salut Marvin.
Bonsoir à tous.
Ça, t'es prêt pour le derby, Marvin?
Non, je pense que c'est pas de ça dont tu veux parler, Marvin.
Ah bon?
Marvin, il veut parler d'Europa League. D'Europa Conference League.
De Conference League, oui. Voilà.
Volo.
J'ai deux questions en une. La première question, c'est déjà de savoir dans quel état d'esprit sont le club d'Aston Villa suite au tirage au sort d'avoir le fait de rencontrer Lille. Et la deuxième question, c'est étant donné qu'ils ont un calendrier très chargé avant et juste après nous, est-ce que Aston Villa va vraiment se concentrer sur cette Conference League ou va la laisser de côté parce qu'ils enchaînent Wolverhampton, Manchester City, Lille et Arsenal, sachant qu'ils ont.
Ouais, c'est ça. C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'ils peuvent pas jouer sur les deux tableaux, déjà, Marvin. Donc, c'est une bonne nouvelle pour vous. Que la qualification potentielle à la Ligue des Champions la semaine prochaine est la priorité, quoi qu'il arrive. Même si, effectivement, ils ont, je pense que c'est une des meilleures équipes qui reste en Conference League. Il y a aucun doute là-dessus. Est-ce qu'ils pourraient la gagner? Je sais pas. Franchement, ils ont vu West Ham le faire en Europa League la semaine dernière. Donc, il y a cette émulation un petit peu. Mais la priorité, ça reste quand même la Ligue des Champions, à mon avis, et le championnat. Et quand tu vois, depuis 2024, là, c'est quand même un petit peu moins bon, les Russes. Alors, ils ont eu une bonne période. Ils ont gagné 3 matchs de suite. Mais sinon, t'as match nul. Ils font match nul contre l'Ajax. Après, ils prennent une fessée à domicile contre Tottenham. Bon, ils gagnent contre l'Ajax, mais l'Ajax, c'est une équipe d'Ajax qui est catastrophique. Pour moi, vous avez vraiment une chance intéressante à jouer, surtout avec le match retour chez vous, en France, à Lille. Vraiment. C'est une équipe qui joue. On l'a déjà expliqué ses caractéristiques avec une ligne défensive très haute que tu peux prendre, pour pas être piégé au hors-jeu. Donc, pour moi, vous avez une vraie, vraie chance, surtout avec ce calendrier que tu as très bien détaillé, où, à mon avis, ils pourront pas jouer sur les deux tableaux.
Merci Marvin de nous avoir appelé. Je vais vous demander d'être assez concis parce qu'il nous reste 3 minutes. J'aimerais qu'on fasse le plus de gens possible. On a énormément d'appels. On a Laurent qui nous a appelé au 32-16. Salut Laurent.
Salut les drôles de dames.
C'est Laurent.
Alors elle est pour qui? Salut ta Laurent. Question Laurent?
Ben, elle est pour tout le monde. En fait c'est une question parce qu'en France, quand on voit qu'il y a Brest qui est dans les 4 premiers, on voit un petit peu ce qui se passe au niveau de tous les supporters, au niveau de la presse. Tout le monde dit ouais c'est super, mais waouh, s'il y a Brest qui représente la France en Ligue des Champions, on est un peu mal. Je voulais savoir comment c'était perçu à l'étranger quand il y avait des équipes surprises comme Bologne en Italie qui est 4e, comme Stuttgart en Allemagne qui est 3e, comme Aston Villa pour le moment qui est 4e. Est-ce que c'est propre aux Français de ne pas vouloir avoir une équipe qui sorte des standards qui représentent le pays? Ou est-ce que c'est pareil en Europe et en Italie, en Espagne, en Allemagne, on dit la même chose, on ne veut pas que Gérone ou on ne veut pas que Stuttgart ou Bologne nous représentent?
Alors, on en a parlé déjà un petit peu. Juste, je profite de ta question, Laurent, pour poser la question aussi à Polo. Tu as touché du doigt Stuttgart tout à l'heure. C'est vrai que c'est une équipe qui nous a plus habitués à jouer le maintien cette dernière saison qu'autre chose. Tu parlais de son football total également. Comment sont perçus les résultats de Stuttgart, notamment en Bouli, Polo?
Mais c'est une excellente question de l'auditeur. Et par contre, je rappelle que Stuttgart, c'est un stade de 60 000 places. Hein. C'est pas à Brest. On n'est pas tout à fait dans les mêmes.
Aston Villa non plus. Hein, c'est cadeau, Laurent.
Ouais, on n'est pas tout à fait. Non, mais on n'est pas tout à fait dans les mêmes rapports. Et Stuttgart a été champion d'Allemagne.
Oui, ils ont été champion d'Allemagne dans les années 2000.
Sauf qu'ils ont des problèmes sur leur politique. En fait, Stuttgart, en ce moment, c'est l'équipe qui joue le mieux d'Allemagne et de loin, plus que Leverkusen. C'est assez extraordinaire parce qu'on ne l'a pas vu venir. Moi, pour moi, en début de saison, ils étaient candidats à la relégation parce qu'on en a souvent expliqué dans l'after, c'est une équipe qui a été faite de briques et de brocs. Et en fait, l'association de Millau, le jeune français, côté milieu offensif décalé côté droit, des deux attaquants, Undav, Guirassy, plus l'ailier international allemand Furic, que je peux vous assurer que vous me l'auriez demandé il y a un an ou deux ans, est-ce qu'il allait peut-être disputer l'Euro, j'aurais rigolé, quoi. Les quatre ensemble, c'est assez génial. Donc on parle de football total en ce moment en Allemagne, avec Sébastien Hoeneß, le coach qui monte et qui sera peut-être à ce rythme-là bientôt un candidat, un vrai candidat dans les prochaines années au Bayern Munich, ouais, pour la Ligue des Champions. Donc c'est vécu comme un mix de ce que fait Pep Guardiola avec le tiki-taka et le gegenpressing à la Jürgen Klopp. C'est-à-dire que on a la prestation de ce week-end dans le derby contre Hoffenheim. Si vous avez le temps, regardez la rencontre, vous revoyez en replay, je sais pas quoi. C'est un truc assez extraordinaire. Je suis ébahi en ce moment beaucoup plus que Leverkusen.
Merci Laurent, merci Polo. Et on finit avec Luigi qui nous a appelé lui aussi au 32-16. Salut Luigi.
C'est pour Johan ça.
Bien sûr.
Salut. Moi c'est pour Fredo du coup.
Ah bah écoute, c'est que c'est un Luigi qui parle pas tout italien, tu te moques de nous ou quoi là.
Non,
te fous le camp dans ce pays, c'est ouf.
Bah du coup moi c'est un peu spécial, je suis supporter du PSG et de l'Athletic Bilbao.
Ah, normal. Hein.
Et du coup là on a gagné contre Alavés ce week-end et on passe devant l'Atlético Madrid pour la Champions League. 4ème. Et du coup, je me demandais, est-ce que vraiment, en plus, on a 6 points de Girona, et du coup, je me demandais vraiment si la course pour la 4e, 3e place, elle est vraiment possible, sachant que, du coup, jusqu'à la fin, sans compter le Real à la reprise, on joue que des équipes de deuxième partie de tableau.
Ouais. Après, il y a l'Atlético aussi. Hein.
Ouais, vous jouez aussi l'Atlético. Mais le truc, c'est que les trois.
Non, il y a Villarreal. Après, il y aura le Celta qui va jouer sa survie. Il y aura Séville et tout. On va dire que c'est une fin de saison équilibrée. Bien entendu que l'Athletic Club de Bilbao peut jouer cette. Si le championnat se terminait aujourd'hui, il serait 4e. Donc, il reste 9 matchs. T'es 4e, oui, tu peux clairement jouer ça. Et surtout, vous avez l'un des meilleurs entraîneurs d'Espagne. Donc Ernesto Valverde, il a l'habitude de jouer les matchs couperets, etc. Donc puis les frères Williams sont exceptionnels. C'est un très bon gardien. On a Simon, le gardien de l'Espagne. Non, franchement, si l'Atlético continue dans ce marasme dans lequel il est, et puis aussi avec la concurrence de la Ligue des Champions qui va quand même les fatiguer. Si Gérone s'écroule en plus, moi j'y crois pas trop, mais voilà, il y a quand même plusieurs ouvertures pour que l'Atlético retrouve la Ligue des Champions la saison prochaine. Ce qui serait un truc de dingue quand même. Si jamais Gérone et l'Athletic sont deux des quatre représentants d'Espagne en Europe, en Ligue des Champions, ce serait fou, quoi.
Merci Luigi de nous avoir appelé. Merci. Tiens, un message sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Sache que t'as mis le feu, Julien, avec ta question du vous préférez qui dans les drôles de dames. Voilà. Il y a FCB 932 qui dit Johan Crochet, il est plus précis que les autres quand il raconte.
Ce qui est vrai.
Ah, c'est beau. C'est beau. Mais il est plus en Ligue des Champions.
Non, voilà. Non. Oui. Mais non. Mais il gagne avec la sélection nationale, lui.
Mais les gars, merci beaucoup. Merci Charles Roldan. Merci Johan Crochet. Merci Paul Breitner. Merci Julien Laurence. Merci Fred Hermel. L'after arrive dans un instant avec Nico Germain, avec Stéphane Guy, avec Daniel Riolo. Le 32-16 reste ouvert. Merci d'avoir été avec nous. Et à tout de suite sur RMC.
Génération After.